Attends, là.
Là.
Là, là.
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 Là, 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 là,
là.
Là,
là.
Là, là.
T'es encore à temps de partir si tu veux.
Non, mais je suis bien.
Qu'est-ce que c'est ce machin? C'est un détecteur de conneries.
C'est pour ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout?
Mais dis-tu nos conneries?
Il veut que je lui dise d'aller se faire enculer?
C'est vulgaire.
Oui, je trouve ça vulgaire.
Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Aujourd'hui, avec moi pour vous divertir, j'ai une fine équipe qui se moque de moi parce que je suis enroué. Mais à commencer par Juan.
Bonjour.
Hicham.
Bonjour la puberté.
Je suis enroué, bah ça va. Camille.
Bonjour patron, comment elle va ta gorge?
Oui, tu vois, t'étais la première à te moquer de moi. Et nous avons un invité aujourd'hui qui est Dari, comment ça va?
Ben ça va bien, bonjour. Voilà. Je suis ravi d'être là.
On est aussi ravi que tu sois là.
Je tiens quand même à dire que ça fait bientôt un an que je suis abonné à Chasseurs Français, j'ai toujours pas vu ta petite annonce. Je suis très déçu.
Il a menti.
Parce qu'elle n'est ouverte qu'à celles et ceux qui ont mis 5 étoiles apparemment sur iTunes. Voilà, oh, placement bim. Produit.
On accueille aussi aujourd'hui les voitures qui passent et les pompiers puisque la fenêtre est ouverte étant donné que vous le savez.
Il fait chaud. Il fait chaud, il y a un paquet de chocolat sur la table donc globalement on va être obligé d'aérer
un peu. C'est fondu.
Bah voilà. Oui, alors c'est pas, ce sera pas mauvais.
Hein. Oui.
Mais blague à part, on vous a demandé un petit soutien sur iTunes avec les notes et on était très contents parce que on a eu des petits cadeaux donc c'était plaisant. N'hésitez pas à laisser un petit mot parce que ça nous fait toujours plaisir d'avoir un petit mot avec ces 5 petites étoiles sur iTunes et ça nous fait très plaisir parce que ça permet de faire connaître le podcast donc vraiment c'est toujours très très chouette.
Et je tiens aussi à remercier, on a souvent les mêmes auditeurs qui commentent sur Facebook quasiment tous les posts.
Ah.
Et merci beaucoup.
Les acharnés. Oui.
Et n'hésitez pas à les rejoindre parce que eux, c'est nos préférés. Voilà.
Ouais. Si vous voulez être dans nos préférés, il faut faire comme eux.
Exactement. Ou nous filer 1000 balles, mais bon, après, c'est vous qui voyez. Hein.
Ou nous envoyer des cadeaux.
Sur ces belles paroles, le filage du jour.
Eh bien, c'est moi qui vais commencer. Une fois n'est pas coutume. C'est pas tous les jours, mais ça arrive quand même de temps en temps.
Et de quoi tu vas nous parler?
Et moi, je vais vous parler de la prohibition. Eh oui. Ah, parce qu'on n'avait jamais parlé. Voilà.
Ben, c'est vrai.
Et vous verrez, c'est vraiment ouf. Enfin, je sais pas si mon sujet va être ouf, mais en tout cas, le thème est ouf.
Touchons du web.
Eh ouais, touchons du parquet flottant. Et Dari, de quoi tu veux nous parler après?
Eh ben, moi, je vais vous parler de fondue et de raclette, principalement.
Ah,
c'est
bah,
un vrai
bah, plaisant. Bon plat d'été.
On va parler d'hérésie antique, principalement. Et puis, surtout antique, en fait.
Ok.
On en reparlera.
Parfait. Donc, tu prends le petit versant historique de Camille, qui est tout de même là.
Oui, bah oui.
N'est-ce pas?
Tu m'as dit bonjour.
Personne
n'en
a douté, tout le monde l'a entendu parler.
Voilà.
Oh, bon, après, ça sera toi.
Oui, moi, je vous ferai un pourquoi.
Pourquoi?
Bah, je vous dirai tout à l'heure.
Très bien. Après, ce sera Hicham.
Oui, je vais vous parler du concours Lépine.
Très bien. Voilà. Tu t'attendais à des blagues vraiment de bas niveau.
Bah, vous les avez toutes fait rentrer.
Non, c'est Lépine.
C'est Juan qui les a
faites. C'est des pines.
C'est
des verges.
Et on enchaîne avec Camille.
Oui, eh ben moi je vais pas rehausser le niveau parce que je vais vous parler de l'histoire du slip. Voilà.
Super.
Dans lequel on met l'épine.
Absolument.
Ça va, Juan, la chaleur, ça se passe?
Le porte-pine, voilà.
Bah, le porte-pine.
Ok, l'épine, c'est aussi les défenses des roses, mais bon, très bien.
Et les petits trucs que tu mets sur ton t-shirt, des fois.
Chacun choisit ses trucs. Ok, bah du coup, est-ce qu'on ne commencerait pas?
Bah, commence. Si.
Allez.
Faisons.
Et à la prohibition, on a passé de la mélasse au Canada. On a fait une fortune, ton père aussi.
On va boire un verre ou pour la peau bas, petit gourdin ou...
Ah oui, juste un petit verre, oui.
On peut tous l'alcool.
Alors, comme vous l'aurez compris, prohibition. Prohibition, j'ai fait le choix, comme sur certains sujets un petit peu longs, de ne pas vous assaillir de dates, de personnalités, etc. Ce qui m'a le plus marqué sur ce sujet, c'est la richesse justement des enjeux qui sont liés à cette prohibition. Parce que comme beaucoup d'entre nous, j'en ai entendu parler, je savais vite fait de quoi ça parlait, mais j'avais pas réalisé à quel point ça avait modelé et transformé l'Amérique, donc c'est plutôt ouf. Alors déjà, comme d'habitude, petite question pour vous, ça évoque quoi la prohibition?
La tease.
Oui.
Ah bon?
Ah donc Hicham, t'as pas la...
Moi, pour moi, ça vient du mot... Enfin, non.
Prohibir?
Ouais, prohibir.
Oui,
bah, c'est... interdire.
Oui,
ouais, c'est ça.
Okay.
C'est interdire.
Jusque-là, ça va.
On interdit quelque chose.
Ok.
C'est pour la tease, les gangsters.
Ouais, il y a de ça, effectivement. Darine.
Tripot clandestin, un truc du genre. Moi,
ouais, ça, très très bien.
J'imagine ça.
Bah, après, j'ai un nom en tête particulier, mais je vais peut-être le balancer maintenant.
On va le balancer après.
C'est Peter et Elliot, c'est ça, non?
Peter et Elliot, le dragon, exactement.
Non, en fait, il y a plein de noms qui sont vraiment ouf et je vous recommanderais, pas dans ce sujet parce que j'ai pas noté les refs, mais j'ai deux refs particulièrement qui sont ouf. Un docu de Arte et un autre qui est un article qui est très très long mais qui est ultra bien écrit et passionnant que je vous conseillerais de lire. Après, il y en a plein d'autres, mais celles-là sont vraiment ouf. Mais donc, je vais commencer par le contexte. Pourquoi il y a eu cette putain de prohibition? Parce qu'à la base, je ne savais pas ce que vous saviez.
Aucune idée.
Alors, donc, Hicham qui n'a pas la ref, c'est la prohibition, c'est l'interdiction de boire, de produire, de vendre de l'alcool.
Aux États-Unis?
Ouais,
aux États-Unis.
Alors, généralement, on parle de celles qui concernent les États-Unis, mais il y en a eu dans d'autres pays.
Je vais partir sur un gros cliché, mais ça n'a rien à voir avec les Irlandais qui...
Enfin, si, il y a de ça, grave. Il y a de ça. Donc, effectivement, dans le contexte, les États-Unis, on sait très bien que c'est un pays qui est plutôt jeune, une nation qui est plutôt jeune. Les premières populations qui sont arrivées, c'est des populations qui étaient plutôt puritaines. Alors vous me dites si je fais des accros historiques, hein, mais n'hésitez pas. Mais
donc,
plutôt puritaines, donc pas trop d'excès, et une population principalement protestante au début, parce que c'est une partie des protestants d'Angleterre qui sont venus s'installer. Là, on est les nouveaux.
Ils sont allés protester ailleurs.
Exactement. Et un des propres des populations protestantes, c'est. Plutôt que de se dire que, enfin, ce sont des personnes qui, plutôt que de se dire qu'elles vont pouvoir faire face à l'adversité, elles vont préférer tenir la tentation loin d'elles pour ne pas y céder. Donc, mettons ça loin de moi plutôt que de me dire Dieu m'aidera et je vais m'en sortir. C'est une petite particularité.
Amen.
Sauf que, comme tu le disais, Hicham, il y a eu plusieurs vagues d'immigration. C'est comme ça que les États-Unis se sont fondés. La population a doublé en une cinquantaine d'années, je crois. Parmi ces vagues d'immigration d'Europe de l'Ouest, donc il y a eu des nouvelles pratiques et de nouvelles techniques qui ont été amenées. Notamment les Allemands qui vont amener, enfin, Allemands et population germanique qui vont amener.
Allemands.
Très bien, référence Snatch. Voilà. Qui vont amener le brassage de la bière, les Irlandais qui vont amener la distillation du whisky et le rhum qui va venir des îles proches, parce que les États-Unis, il y a plein d'îles à côté. Donc, tout le monde boit, c'est un peu, c'est une époque où c'est un peu le zbeul, enfin, c'est pas que j'ai pas précisé, mais c'est fin 19e. C'est vraiment un zbeul monstrueux, donc, excusez-moi. Donc, on donne des primes de whisky et de rhum aux soldats, les médecins prescrivent de l'alcool, enfin, la société est totalement.
Des primes de whisky?
Ouais, exactement. Ils avaient le droit à un demi-verre, pas forcément payé, mais c'est genre, ils avaient le droit à un demi-verre de whisky par jour ou de rhum s'il n'y avait plus de whisky, enfin. C'était vraiment pas une monnaie d'échange, mais une façon de récompenser et de garder les soldats en mode « Allez, ça va être cool, t'auras du rhum. » Et il y avait même les médecins qui prescrivaient de l'alcool parce que c'était réputé pour être bon à l'époque. Donc ouais, il y avait une société qui était vraiment un contexte qui était très très particulier. Il y a un autre lieu que je trouve un petit peu mythique, enfin qui pour moi est un petit peu mythique, qui va être un peu décisif pour cette histoire, c'est les saloons. Mmh. On a l'image des saloons où c'est un zbeul pas possible. Mmh. Effectivement, c'était totalement le cas. Ce que j'ai découvert, c'était un lieu qui est plus riche que ce que je ne pensais. Donc, c'est un lieu de vie et de débauche. Mais en fait, là-bas, on pouvait toucher sa paye contre un chèque parce que, aux États-Unis, les chèques, on ne les encaissait pas qu'à la banque. On pouvait les donner à des gens contre de l'argent ou des biens ou d'autres choses. On pouvait y trouver du travail. On pouvait dilapider sa paye en alcool en un soir. Donc, c'était un lieu de rendez-vous quotidien. On pouvait retrouver ses collègues, ses potes, trouver un taf, de la thune, enfin, faire plein de choses. Le fait est que, vu que c'était un rendez-vous quotidien, les mecs rentraient bourré tous les jours, raide caisse, et là, ce qui devait arriver malheureusement, violence conjugale. Donc c'est une routine destructrice et qui était généralisée au niveau du pays, donc ça c'était assez dramatique. C'était assez dramatique, et c'est beaucoup moins anecdotique que ce que je pensais. Parce que fin du 19e siècle, donc il y a la Ligue Anti-Saloon qui est apparue. Donc en fait, c'est une bande d'anciens gros picoleurs qui se sont dit « Bah nous, on a décidé d'arrêter de picoler » et qui ont commencé à monter un mouvement là-dessus. Il y a aussi un mouvement des femmes pour la prohibition. Donc c'est une des premières actions politiques des femmes américaines. Et en fait, ça a pris une ampleur plutôt conséquente. C'est aussi l'apparition en fait, des ancêtres des alcooliques anonymes, donc des anciens buveurs qui faisaient de la merde, qui se sont un petit peu repentis. Et à cette époque, il y avait déjà plusieurs états ou comtés qui appliquaient ce qu'on appelait des lois sèches, donc les dry laws, pour justement prohiber la consommation et la production d'alcool. Mais c'était vraiment localisé et c'était à la discrétion des chefs de comté ou des chefs d'état. Au niveau des États-Unis, bien sûr. Donc, je parlais de dry laws. Donc, on parle de dry states ou de wet states. Donc, dry states, c'est ceux qui ont interdit la consommation d'alcool. Et les wet states, donc les états humides, mouillés.
Ouais.
Voilà, ceux où on peut picoler et s'imbiber. Dernier petit détail qui va...
On court ton sujet.
Non, dernier petit détail pour le contexte, mais qui va déclencher cette prohibition. même s'il y a déjà pas mal de choses, c'est le contexte militaire, enfin historico-politique, parce que bah, là on était fin du 19e, si on avance un tout petit peu, on arrive à...
20e siècle.
Et donc...
L'industrialisation, la guerre de sécession...
Première guerre mondiale.
Aussi.
Première guerre mondiale, aussi. Et donc... Une fois que les États-Unis rentrent dans le combat, il y a une propagande anti-allemande qui se met en place, même sur le territoire américain. Donc déjà, il y a un gros truc qui est culturel à ce moment-là, qui est culturel et sociétal, où on considère que les dernières générations d'immigrés ne sont pas tout à fait américaines, alors que pour certains, il n'y a que 100-150 ans d'écart avec ceux qui sont arrivés avant. Donc la différence n'est pas ouf. Mais donc on va diaboliser les brasseries allemandes, et donc on va ne plus y faire appel. Sauf que ça c'était le commerce de l'alcool, comme on a vu que c'était inscrit vraiment dans la société, mais de partout, c'était des primes, c'était des médicaments, c'était la consommation, enfin c'était le repas matin, midi et soir de tout le monde. Ça pouvait représenter pour certains états jusqu'à 30% des revenus de l'état. Donc c'était clairement un revenu qui était indispensable pour certains états, jusqu'à la mise en place de quoi ? Qui n'existait pas. Une source de revenus.
Les impôts.
Oui, impôts sur le revenu. Donc les impôts sur le revenu, quand certains États ont mis ça en place, ben en fait, ils ont plus, vu qu'ils taxaient directement la population, ils n'ont plus eu besoin de cette taxe sur l'alcool. Et ça fait partie des choses qui ont poussé le... Enfin, c'est tout un travail de lobby qui a duré des dizaines d'années et qui a abouti avec toutes ces petites choses. Et enfin, les dernières, enfin, une des dernières et pas forcément des moindres, c'est le fait de conserver les céréales pour nourrir la population et les soldats sur le terrain, plutôt que de faire de la bière, ce qui paraît plutôt logique quand c'est la guerre. T'envoies de la bouffe à tes troupes plutôt que de l'envoyer des bières.
Bah, la bière, ça cale, hein.
Alors, ça cale, ouais, mais pour gagner des guerres, c'est plus dur.
Ah oui, c'est plus complexe.
Il faut éponger.
Voilà. Ce qui nous amène en 1919, où c'est le 18e amendement de la Constitution qui est mis en œuvre et qui instaure la prohibition.
Donc, ça s'est fait carrément dans la Constitution.
Ouais, exactement. Et c'est pour ça que c'est plutôt ouf. Et ça aussi, c'est un aspect juridique qui va créer la complexité de cette situation que je vous expliquerai après, parce que vu que c'est dans la Constitution, de fait, pour l'annuler et l'enlever, en fait, c'est beaucoup plus compliqué parce que la Constitution est quasi sacrée là-bas. C'est-à-dire qu'au tribunal, si je ne dis pas bêtise, on jure sur la Constitution, non ?
Il me semble que oui.
Voilà. Et c'est le président des États-Unis qui prête serment sur la Constitution.
La
il me semble que son. Bref, je checkerai.
Les deux, là, n'empêche pas l'autre, ils mettent une feuille à quatre pliés de la Constitution.
Non, mais c'est sur la première Bible. Demain, hein, je suis sûr. C'est la première Bible.
Peut-être qu'il est debout sur la Constitution et qu'il touche la Bible.
Bon, en tout cas, il jure de. Je crois que c'est de prendre au sein de la Constitution, je sais pas quoi, mais bon, c'est très très important pour eux. Donc, ce 18e amendement, qu'est-ce qu'il précise ? Enfin, qu'est-ce qu'il interdit ? Il va interdire. Alors, c'est beaucoup plus strict que ce à quoi il s'attendait, parce qu'il va interdire toute boisson qui contient plus de 0,5% d'alcool.
Donc tout.
Ouais, globalement c'est chaud, parce que là
du
vinaigre ça commence à être chaud. Bah 0,5, je pense que la Smirnoff Ice elle est dedans. Hein.
Ah bon ?
Ah ouais. 0,5 c'est vraiment, enfin du vinaigre, là je pense que j'ai du vinaigre en bas, il y a plus, soit ça doit être 1% d'alcool, un truc comme ça.
Ah, oui.
Ah ouais non mais 0,5 c'est vraiment rien, donc il y a quand même quelques exceptions. Donc notamment les alcools qui servent aux cérémonies religieuses. Petite anecdote, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont déclarées rabbins à l'époque pour pouvoir profiter de quelques bouteilles de tease. Et donc il y a des anecdotes qui disent qu'il y a des mecs qui ont découvert des... Ah, désolé pour les petites sirènes. Mais ils ont découvert des genres rabbins O'Connor, rabbins machin et tout. Parce que bah, en fait, vu qu'ils n'avaient pas de moyen de vérifier qui était rabbin, qui n'était pas, hop, ils se faisaient passer pour rabbin et c'était parti. L'alcool était tout de même autorisé pour les prescriptions médicales également. Et là, ça a été le zbeul au début. J'ai dit beaucoup zbeul, je vais arrêter de le dire.
Oui, c'est vrai.
Mais ça a été un sacré bazar, un sacré barouf, un chamboulement au début. Parce
bon
que
bordel, justement... je ne claque pas tous les synonymes tout de suite parce qu'après, tu n'en auras plus.
Ouais, donc pour contourner la loi, en fait, bah, les personnes qui voulaient consommer de l'alcool parfois faisaient des fausses, un peu comme y a un gros...
Pas hydraté temps partiel.
Ouais, bah, je pensais plutôt au cannabis aux États-Unis, ah, oui. Genre, oh là, j'ai un glaucome. En fait, il y a un énorme parallèle avec l'interdiction du cannabis aux États-Unis.
Même avec le délire de wet state et dry state, ça s'applique encore.
Exactement. Exactement. Et en plus, on le verra, c'est une loi qui a été poussée par des lobbies, mais qui n'était pas poussée par la population. Donc, ça fait un parallèle supplémentaire avec avec le cannabis. Et donc pour ces prescriptions médicales, il y a même des personnes qui déclaraient plusieurs personnes de la famille comme étant malades pour pouvoir avoir des prescriptions supplémentaires et pouvoir se mettre des grosses murges alors que personne n'était malade au final. Une des dernières exceptions, c'est les collections personnelles et les clubs privés. Donc n'était pas interdit, les collections personnelles qui étaient, qui ont été constituées avant la...
Quoi.
Comment ?
Si t'as ta cave, en fait.
Exactement. Ou bien les clubs privés, par exemple le club de Yale... Si vous voyez l'école prestigieuse de Yale, qui a le Yale Club, qui est donc tout aussi prestigieux. Et donc, ils ont prévu le coup parce qu'ils savaient que la loi allait arriver, pardon. Et donc, ils ont fait des réserves avant la mise en application de la loi. Et ils ont fait suffisamment de réserves pour abreuver ses membres pendant 14 ans. Donc, ils se sont fait des réserves monstrueuses avec des dizaines de milliers de putains de bouteilles. Putain. Et ils ont tenu tout le truc. En plus, ça ne devait pas être des bouteilles de merde. Mais ouais, bon, clairement, ils voulaient prendre soin de leurs membres. Cette loi... Comment ? Oh mon dieu. Ok, il marchait pas mal. Cette loi, malheureusement, il y a une erreur majeure qui fait que sa mise en application était très très compliquée. C'est que la loi a été votée, mais pas les moyens pour la faire appliquer. C'est-à-dire que l'application de cette loi et le fait de mettre des contraventions et de chercher les contrevenants, ça a été confié au Trésor public au lieu de confier ça à la justice. Donc c'est comme si on filait ça aux fonctionnaires des impôts plutôt qu'à la préfecture, à la justice et à la police. Globalement, ils avaient ni les hommes pour, ni les techniques pour. Enfin, ils n'étaient pas taillés pour, globalement. Ce n'était pas leur taf. Mmh. Et ça, c'est potentiellement un acte manqué de « Ok, allez, on vote la loi, mais on n'a pas tout à fait envie que ça s'applique. » Donc, effectivement, ça a créé des gros problèmes. Et on le verra par la suite, ce n'était pas la loi la plus respectée de la Terre. Enfin, dernier truc qui s'est un peu créé suite à la mise en place de ce 18e amendement, c'est une énorme fracture sociale. On ne s'y attendait pas forcément. Mais en fait, étant donné qu'à la base, cette activité de biture populaire, elle était accessible à toutes et à tous parce qu'il y avait des bars un peu partout et l'alcool était pas cher, vu que l'alcool est devenu un produit de luxe et les lieux où on en servait étaient moins accessibles, en fait, c'est devenu un rendez-vous mondain, une activité mondaine. Et donc, il y a une fracture entre ceux qui pouvaient se permettre de fréquenter les lieux où on servait de l'alcool et ceux qui pouvaient pas. Problème qui était accentué par le fait que ces lieux qui servaient de l'alcool, c'est devenu des centres culturels qui concentraient d'autres choses, comme la musique, par exemple, où il y a eu pas mal de choses, comme le Cotton Club, que vous connaissez peut-être.
Non.
Avec Duke Ellington, c'est un des clubs... c'est un peu l'âge d'or du jazz, ce qu'on appelle les années folles en France, c'est les Jazz Ages, je crois, si je dis pas de bêtises. Aux US, et donc voilà, il y a des choses qui étaient absolument folles, et encore une fois, à Harlem, on a vu des choses monstrueuses musicalement parlant, mais donc ces lieux n'étaient pas pour le tout venant, et donc ça a créé malheureusement des petites dissensions à la population. Comme je le disais, c'était une loi qui était plutôt peu respectée, et il y a eu c'était une loi de façade, et il y a eu la mise en place d'un énorme réseau de contrebande, et là aussi j'étais monstrueusement impressionné. Pourquoi ? Et en fait, c'est une des premières fois où une loi est bafouée à ce point aux États-Unis, comme on disait, ils sont plutôt puritains, une des raisons de cette loi, en fait, c'était montrer qu'ils étaient un peu meilleurs que les autres et ils pouvaient se passer des vices de l'alcool. Et là, en fait, c'est une des premières fois où la Constitution n'est pas respectée. Même ceux qui soutenaient la prohibition, en fait, eux-mêmes continuaient de consommer de l'alcool, d'en produire, de faire de la contrebande. Comment ? Je parlais des petits bars clandestins tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle les speakeasies. Donc là, il va y avoir tout un volet culturel.
Pourquoi speakeasies ?
Parce qu'on pouvait y parler facilement, je sais pas.
Avec l'alcool ?
Peut-être.
Non, je sais pas, c'est bien speakeasy, mais je ne sais pas pourquoi ça s'appelle un speakeasy.
Ah ça fera un prochain pourquoi, écoute.
Parfait.
Parce que je connaissais le terme speakeasy, mais je ne savais pas. Parce qu'en fait, c'est un bar clandestin, tout simplement, où on sert donc de l'alcool de contrebande, importé ou fait maison. L'alcool fait maison, vous connaissez peut-être le nom. C'est le nom d'un bar parisien, d'ailleurs. Et c'est un nom qui est plutôt connu. Le moonshine.
Ah oui.
Ouais. Pourquoi le moonshine ? Parce que c'est de l'alcool qu'on fabriquait au clair de lune.
Ouais.
Exactement. À la campagne.
C'est une chanson de Tokyo Hotel. Ça.
Non, c'est une chanson de. Putain, un groupe français que j'ai oublié, mais c'est pas très grave. Vous cherchez Moonshiner, qui est plutôt chouette.
On diverge.
Voilà. Donc dans ces speakeasies, on servait du moonshine. Et donc il y avait plusieurs façons d'en récupérer, soit le faire, soit l'importer. On pouvait l'importer du Canada, du Mexique, des îles, tout un réseau qui s'est fait avec soit des bouteilles qui étaient jetées près de la plage et tu récupérais tes boutanches, soit des bateaux qui étaient stationnés au niveau des eaux internationales et t'allais avec une barque récupérer tes bouteilles et tu revenais. Enfin, tout un système qui s'est créé et vraiment c'est fou d'ingéniosité ce qui s'est passé, c'est absolument ouf. Et donc voilà, il y avait des façons, enfin les pays aux alentours, donc Canada, Mexique, on en profitait pour se faire un petit peu de bise, quoi, mine de rien. Et on a aussi, mine de rien, la production locale, personnelle, où là, c'était avec potentiellement moins de réussite, c'est ce qu'on appelle les alcools frelatés, donc c'est de l'alcool qui était, on va dire, mal produit, qui pouvait être toxique. Et donc certains, Enfin, c'est de là que vient la légende de l'alcool qui rend aveugle. Enfin, de l'alcool fait maison qui rend aveugle, parce qu'il y a certains alcools frelatés qui avaient des produits qui attaquaient le nerf optique et donc qui rendaient aveugle. Mmh. Donc, il y en a qui rendaient aveugle, il y en a qui faisaient qui attaquaient les nerfs et qui faisaient trembler les jambes. C'était le leg shake ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Parce qu'il y avait c'était mélangé à du détergent de peinture ou.
Ah, sympa.
Ouais, non, c'était vraiment ultra artisanal.
Écoute, on faisait avec ce qu'on avait sous la main.
Sachant que les méthodes de. Sachant que pour produire, en fait, un alambic, c'était vraiment pas cher, ça coûtait rien du tout. Et les méthodes pour produire de l'alcool étaient connues de tous, accessibles à toutes et à tous. Donc c'était vraiment. C'était easy peasy, quoi.
Si jamais il y a des gens en Arabie qui nous écoutent.
Eh bah, sachant que là, à la base, c'était les politiques qui avaient décidé eux-mêmes de ne pas appliquer la loi. Donc là, ça va être un peu plus chaud, je pense, en Arabie. Mais bon, donc comme je disais, ouais, enfin. Justement, donc l'homme qui a présenté le texte du 18e amendement, lui-même s'est fait attraper parce qu'il produisait de l'alcool de contrebande. Donc c'est vraiment que tout le monde s'en battait les couilles et voilà, ils avaient décidé clairement que, allez, on fait passer la loi, mais quand même envie de boire un petit coup, quoi. Donc les contrebandiers, pareil, vous connaissez peut-être le nom des contrebandiers qui faisaient passer de l'alcool. Ils le cachaient dans leurs chaussures. Non, je sens que tu as l'air très très intéressé par ce sujet. Non, on les appelait ça des bootleggers parce que la tradition veut qu'ils cachaient à la base les bouteilles dans leurs chaussures. Ça date de la guerre de sécession, je crois. C'est un peu ça, ouais, effectivement. C'est un peu ça. Et donc, en fait, il y avait une telle thune à se faire qu'en quelques jours, quelques semaines, y a tout un business qui est ultra rentable, qui s'est créé. Et c'est le début du crime organisé. Donc, je vais y venir juste après. Il y a ce cher Fiorello LaGuardia, qui est futur maire de New York. Il a été élu, je crois, 3 ou 4 fois, mais après cette période. Et donc, il aurait déclaré « Il faudrait 250 000 policiers pour appliquer la prohibition et 250 000 autres pour surveiller la police. » C'est-à-dire que globalement, c'était pas ouf, quoi. Donc là, je vais vous parler rapidement du grand banditisme qui a pris place, parce que c'était vraiment un système absolument fou. Globalement, les dernières générations d'immigrants, comme je disais, étaient rejetées par les précédentes, alors qu'en fait, elles n'avaient pas beaucoup d'écart d'immigration, parce qu'il n'y avait que des immigrants aux États-Unis, à part à ceux qui étaient déjà là et qui se sont fait éclater, mais c'est une autre question. Donc malheureusement, vu qu'elles étaient rejetées, elles ont fait leur vie à côté, et donc elles ont fait des organisations criminelles, pardon, par regroupement culturel. Donc il y avait des gangs d'Irlandais, des gangs de Polonais, des gangs d'Italiens, etc. Et c'est parce qu'aussi il n'y avait pas de taf légaux pour eux, donc en fait ils ont fait avec ce qu'il y avait, quoi. C'est le rejet de la population qui a créé ces organisations criminelles. Donc au début, il y a une espèce d'entente cordiale entre les gangs, donc chacun son territoire et on ne s'attaque pas, et ça va très bien. Et c'est là qu'on va parler d'un certain Alphonse, que vous connaissez très certainement, parce que là sinon on a un vrai problème.
Alphonse Brown.
Voilà. Exactement.
Alphonse Brown, oui.
C'est Alphonse Capone, aka Scarface.
Ah.
Exactement.
Je sais pas qui s'appelait Alphonse.
Et Al Capone. Alphonse Capone.
Ah
bah ouais. Ça fait moins classe, on est d'accord, Alphonse. Hein. On est d'accord. Donc lui, il officiait à Chicago. À la base, c'était le bras droit de Johnny Torrio. Donc c'est le chef déjà de la. Excusez-moi. C'était le chef du gang des Italiens de Chicago. Mais c'était également le chef du syndicat du crime de Chicago. Donc c'est un vrai syndicat du crime avec toute une équipe.
C'est pas les trois mots les plus stylés du monde, mis côte à côte. Syndicat du crime.
Ouais, c'est quand même pas mal.
Moi, j'aime bien.
Il y a le duc qui brille un peu moins, mais il sert quand même. Mais donc ce cher... pourquoi le syndicat du crime? Parce qu'en fait, il y avait tous les chefs de gang qui étaient réunis, avec chacun son territoire. Et Torrio, il avait très bien compris que la guerre nuisait au business. Et il s'est dit, bon, le gâteau est assez grand, donc on va chacun respecter le territoire des autres, et tout se passera bien. On sera tous riches comme tout, et pas besoin de se prendre la tête. Donc son équipe, cette équipe de X gang de Polonais, d'Irlandais, d'Italiens, etc., elle a fini par être appelée The Outfit, donc... L'équipe, si je ne dis pas de bêtises, l'équipe, la team, les Zouzous, enfin...
Outfit ?
Ouais.
Les outfits, c'est l'uniforme.
Ouais, bon bah écoutez, vous me ferez une traduction a posteriori. Ouais. Donc cette équipe, The Outfit, elle a le soutien du maire corrompu de Chicago. D'après ce que j'ai pu lire sur lui, c'est entre Jean-Claude Godin et Patrick Balkany, parce qu'il a été élu à multiples reprises, mais il était corrompu à crever, et il utilisait l'argent public justement pour aider le banditisme. Plutôt pas ouf, big up à toi.
Toujours de Marseille là.
Ouais, Godin laisse la place, et puis Balkany pareil. Mais donc, ouais, non, c'était en fait c'est tellement institutionnalisé que d'après le préfet de police de Chicago, il y avait 60% des agents de police qui étaient corrompus.
Pas mal.
Ouais,
c'est effectivement. Ouais.
Mine de rien, déjà ici, quand on apprend qu'il y a 3 agents de police qui sont corrompus, tu dis putain, ça craint. Là, 60% pour en trouver un qui n'était pas corrompu, déjà, t'avais
fallait creuser quoi.
Ouais, voilà.
Ça me rappelle l'Algérie aussi, c'est un autre sujet.
Ambiance.
Après corrompu, c'est un mot un peu large.
Voilà, donc là on est à peu près dans les années 20 et ce cher Alphonse Capone, Al Capone, notre cher Coco, bah, en fait, lui il va décider de détendre son empire, il va déclarer la guerre aux Irlandais et aux Polonais, il va finir par obtenir un quasi-monopole et une quasi-immunité vis-à-vis de la justice, c'est-à-dire vis-à-vis de la justice, pardon. Il sait qu'il a tout le monde dans sa poche, mais alors à cette époque, beaucoup plus de 60% des policiers, il fait ce qu'il veut. En fait, il est tellement installé que le mec, enfin, il claque son bif comme il veut, il fait passer des lois. C'est, pour moi, ça me fait vraiment penser au début de Narcos, où il va carrément rentrer en politique, genre, enfin, il a peur de rien, quoi.
Et du coup, Al Capone, il était dans la scène politique ?
Il a fait des pressions politiques avec des rafles et des conneries et tout, mais il me semble qu'il voulait être un acteur de la communauté à un moment, mais pas au niveau politique. Mais en fait, il arrosait de thunes quand il voulait faire des choses et okay. Il n'était pas dans pas la politique institutionnelle, on va dire. Mais non, en fait, voilà, il était tellement protégé par tous que bah, pour le choper, il a fallu passer par des voies détournées. On savait que c'était un meurtrier, un contrebandier, etc. Et donc, ils ont fini par, après vraiment des années de lutte, ils ont fini par le choper pour fraude fiscale. Ouais. Voilà, c'est ce qu'il leur a fallu pour foutre Al Capone en tôle. Donc, alors que c'était le criminel le plus connu de l'époque, donc je trouvais ça un petit peu rigolo. Et pareil, en fait, il était tellement pété de thunes qu'il a fait il s'est fait une petite Cadillac blindée qui faisait plus de 3 tonnes, donc un truc plutôt costaud. Et en fait, elle était tellement sécurisée qu'après la chute d'Al Capone, donc elle a été saisie, et le gouvernement des États-Unis l'a utilisée pour transporter Franklin Delano Roosevelt quand il était président.
Sérieux ?
Parce que c'était la voiture la plus sécurisée qu'ils avaient sous la main à l'époque. Quoi.
Tu m'étonnes, elle fait le poids d'un éléphant d'Asie, le truc.
Effectivement, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, je vous passe tous les détails, toutes les aventures de cette prohibition, mais il s'est vraiment passé des choses folles, et bah, je vous donnerai les documents, vous verrez, c'est passionnant, enfin le côté politique, banditisme, etc. J'ai passé aussi toute la lutte politique parce qu'il y a quand même eu quelques personnes, dont je crois une personne qui s'appelle Mabel Thompson, qui était la seule personne qu'on n'avait pas prévenue que tout le monde était corrompu, donc elle s'est dit qu'elle allait se battre quand même et elle a réussi à faire pas mal de choses. Mais finalement, après toutes ces aventures, on arrive un peu retour à la normale ou presque, donc dans les années 30, c'est...
Les années folles.
Non, c'est la Grande Dépression. Voilà.
Oui, c'est après le crack de 29. Ouais.
Tout à fait. Donc, grande dépression, donc galère de thunes, abolition de la prohibition. Pourquoi ? Bah, pour relancer la consommation, l'industrie, créer des emplois officiels, parce qu'en fait, toute la thune que se sont fait les contrebandiers, elle n'est pas rentrée dans les caisses de l'État. Et la thune que se sont fait les contrebandiers, il me semble qu'en 1923, je crois que c'était j'ai plus exactement, mais c'est de l'ordre du million par semaine ou un truc comme ça. Enfin, juste pour Chicago, pour le gang de Capone et de Torrio. Ouais, de Capone et de Torrio. Donc c'est des montants qui sont ouf. Et ça, c'est juste
mal,
Chicago.
C'est pas mal.
Donc ils se sont dit, on a besoin de thunes, il faut faire des revenus pour l'État. Et ben, on va remettre l'alcool et on va faire des taxes dessus. Donc le 5 décembre 1933, l'article 21 de la Constitution abroge l'article 18. Donc je crois que c'était la première fois et je sais pas si c'est pas la seule fois où il y a un article complet de la Constitution, il est purement et simplement annulé. C'est comme ça. Et la Constitution, comme je disais, c'est quelque chose de plutôt sacré aux États-Unis, donc ça, c'est fou.
Ouais, mais vu que c'était une loi qui a été, ajoutée bien plus tard...
C'était pas une loi, justement. Il y a une loi qui était le Volstead Act, mais dans la Constitution, normalement, c'est assez dur, et c'est pour ça aussi que ça met beaucoup de temps à être retiré, à être annulé, parce qu'il y avait des gens qui voulaient le faire annuler, mais changer la Constitution, c'est très compliqué, surtout faire annuler quelque chose de la Constitution. C'est pour ça que ça a mis beaucoup de temps. Donc finalement, le syndicat du crime abandonne l'alcool et se tourne vers d'autres activités sur lesquelles ils étaient déjà plus ou moins, mais d'autres drogues encore illégales, prostitution et bien d'autres choses. Les actions des femmes ont plutôt porté leurs fruits, puisque le droit de vote des femmes aux États-Unis a été proclamé dès 1920. Donc je vous rappelle que la prohibition c'était 1919 et donc dès 1920 elles ont le droit de vote, plutôt pas mal. Elles ont fait le taf. Il y a eu quelques effets indirects de la prohibition, l'émergence des sodas et l'avènement du Coca-Cola, ce qu'il a fallu trouver une boisson populaire pendant la prohibition à partager avec toutes et tous de manière légale. Donc c'est comme ça que certains sodas bien connus ont pu monter un empire. Et en parlant d'empire, il y a eu tout un pan de la consommation à reconstruire. Donc les seuls, au niveau de la production d'alcool, les seuls qui ont pu rebondir, c'était les industriels. Et donc il y a eu gros impact sur les produits à disposition des consommateurs, puisqu'il n'y avait plus autant sur le whisky que la bière, etc. Il n'y avait plus de brasseries artisanales, il n'y avait que les très 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 grosses brasseries. Et donc c'est ce qui fait que pendant des dizaines d'années, ils ont eu que de la bière de merde, de la bouse, de la lagueur à 2 balles, etc. Mais parce qu'il n'y avait que les gros industriels qui ont pu se requinquer après ça. Et enfin, bah voilà, c'était un énorme jeu de dupes malheureusement, parce que les personnes même qui ont voté cette loi ont décidé de ne pas la respecter. Et c'est un des plus gros fiascos légal et sociétal de la politique aux États-Unis, parce que à la fois sur les impacts sociaux, comme je disais, il y a une fracture sociale, il y a eu des problèmes de santé, il y a eu des problèmes vis-à-vis de la loi, parce que du coup maintenant il y a un non-respect de la loi qui a été ancré pendant une quinzaine d'années. Donc voilà, c'est fini cette petite histoire, mais je vous recommande de suivre différents films dessus, sur les incorruptibles, sur plein de choses, et c'est passionnant.
Je connaissais pas du tout toute cette histoire.
Moi non plus.
Voilà. Pas du tout.
Et petit point de comparaison avec notre France actuelle. France. Ça te semblait, voilà, notre la France, pas n'importe laquelle.
Baguette.
Les agents de l'État qui aujourd'hui gèrent la répression et le contrôle de la fabrication et de la vente d'alcool, c'est encore des agents du ministère de l'Économie et des Finances.
Ah, je ne savais pas.
Ça te surprenait que ce soit les impôts aux États-Unis, mais. C'est toujours lié au ministère économique et financier.
Ah, je savais pas, ça c'est ouf.
Le contrôle, les contributions indirectes, les taxes sur l'alcool.
Ah, mais c'est ouf. Ouais. Bah là, c'était surtout faire appliquer la prohibition, et du coup, en fait, bah, des agents de terrain, ils en avaient pas, quoi. Ouais. Donc quand il faut un flic pour, alors, pareil,
sauver la reine.
Non, mais je vous ai passé les détails dessus, mais pendant un moment, en fait, ils ont fait des recrutements massifs d'agents anti-prohibition, parce qu'en fait ils avaient personne, quoi. Donc ils ont recruté le tout venant, qui était des pauvres types qui savaient rien faire, à qui ils ont filé une arme, une plaque, et leur ont dit va. Et en fait les mecs, ils en ont profité pour se corrompre comme des gros bâtards, et deux semaines après ils avaient un gros manteau de fourrure, une voiture, et enfin c'était un carnage. Et vraiment c'était le putain de Far West aux États-Unis pendant 15 ans, quoi, enfin dans certains états, mais c'était un bordel sans nom.
Ça, tu balances des mecs qui sont pas formés, forcément ils font n'importe quoi.
Ah, il y a une petite histoire que donc je vous mettrai les liens du documentaire d'Arte, mais une petite histoire que j'ai pas mis dans le sujet parce que je voulais pas leur piquer, mais il disait qu'il y a deux jeunes mecs qui venaient de rentrer justement dans cette milice pour faire appliquer la prohibition, qui sont allés dans un speakeasy pour faire appliquer le truc. Et en fait, ils étaient tellement choqués du pot de vin que voulait leur filer le patron, qu'ils ont fait passer un chapeau parmi les gens du public qui étaient dans le bar, ouais, pour qu'ils leur filent de la thune. Donc vraiment, ils avaient aucune race et ils s'en foutaient de tout, quoi. Voilà, ce sera tout pour moi. Okay. Je pense qu'on peut passer à Dari.
Eh bien, c'est au tour de Dari.
Hérétique ! Non, mais c'est pas la parole, hérétique, démon ! Ça va sentir le sapin.
Starfoula, moi je quitte cet endroit.
Voilà, merci.
Ok, très bien. Merci Shem pour le jingle.
Ok, then.
Mais ça colle vachement bien, on va s'en rendre compte.
Mais c'est fait pour.
Allez, parfait.
Bon, du coup, merci quand même de m'avoir invité.
C'est un plaisir.
Je le redis là parce que
pas demandé de te présenter, mais est-ce que tu veux partager des choses que tu fais?
Oui, d'ailleurs,
quand tu fais des choses.
Dari, de la chaîne Temps Mort sur YouTube, donc une chaîne YouTube. Où je fais de l'histoire et de l'archéo, et donc je fais des lives où je reviens un peu sur les croyances populaires, des mythes historiques. Je parle les jeux du cirque chez les gladiateurs, les vikings chez eux, chez nous, tout ça. Et je fais du débunkage de documentaires conspirationnistes aussi.
Ah,
alors je crois qu'on dit debunking.
On dit ce qu'on veut, parce que comme debunk, c'est anglais.
Parce qu'on est sur des quintuples anglicismes.
Je fais de la critique historique, analyse documentaire de films conspi.
Cool, donc Temps Mort, très bien, on mettra le lien également.
C'est gentil.
Tout à fait.
Je mettrai des liens aussi.
Ah, trop cool.
Du coup, j'ai envie de vous parler d'hérésie, d'hérétique et d'hérésie, et tout ça un petit peu mélangé, donc l'hérestique, on va dire.
Voilà, bravo.
Je vais inventer des mots. Et j'ai envie qu'on évoque le pourquoi est-ce que en Occident, en Europe occidentale, Europe de l'Ouest, on n'entend quasiment pas parler d'hérésie avant le milieu du Moyen-Âge, en gros.
Alors, bonne question.
Est-ce que c'est une vraie question que tu nous poses?
Je vais vous la reposer après pour digérer là.
J'ai pas l'info. Là.
Non, mais je sais, je vous prends un peu en traître. Réfléchissez-y et puis je vous repose la question tout à l'heure. Vous le savez peut-être ou pas, au pire je vous l'apprends, en 1054 il y a eu un schisme entre l'église chrétienne catholique et l'église chrétienne orthodoxe.
Jusque-là ça va.
Jusque-là ça va. Et donc, moi j'ai envie de vous demander, je vous pose la question, donc, on se connaît depuis assez peu de temps, mais... Si je vous pose la question là, je vous incite à répondre, du coup. Combien est-ce qu'il y avait d'églises avant cette séparation?
Beaucoup.
Plusieurs.
Oui.
On va reprendre depuis le début. On va faire les comptes après.
Deux.
Du coup, l'église. avec un grand E, c'est une institution qui base son fonctionnement sur un dogme. Voilà, ça va pas être le, enfin ça peut être le bâtiment avec un petit E, mais avec un E majuscule.
Pierre, voilà. Tu es Pierre
et sur cette pierre.
Hein. Voilà, exactement. Si vous voulez comprendre un petit peu plus les bases du christianisme, je vous renvoie vers l'épisode 5 de la saison 2 de ce même podcast. Vous vous démerdez.
On n'était pas là.
Oh, j'avoue, mais se manger une claque là. Écoutez vos propres sujets, bande de tocards.
Non, mais je parle aux auditeurs, pas à vous.
Ah, c'est eux que tu traitais de tocards ? Non, c'était nous. Pardon.
Le dogme. Donc, c'est un peu les règles qui vont gérer cette religion. Donc, quand vous êtes tout seul à choisir, ça passe assez bien. Mm-hmm. Bon, quand vous êtes deux, ça gère aussi. À trois, bon, ça va encore. Quand vous êtes plusieurs millions pour s'entendre entre le chrétien de Byzance et le chrétien de Brest,
eh ben, faut parler fort.
Galère.
Ça devient un petit peu compliqué. Du coup, comme ça devient un beau bordel, qu'est-ce qu'on va faire pour que tout le monde suive la même foi et les mêmes rituels ?
On va créer une institution.
Oui, on va faire des réunions.
Ah oui, les. Les ah, putain,
baptêmes, les conciles, les, tout à fait. Bon, que les choses soient claires quand même, on va pas demander à tous les chrétiens de ramener leurs fesses à une réunion, hein. On va juste convoquer les évêques et archevêques.
Ceux qui ont une cape, députés d'église.
Voilà, c'est un petit peu ça, tous les ministres de Dieu, qui eux vont se réunir et prendre des décisions sur comment doit être gérée la communauté des fidèles. En gros. Donc ce genre de réunion, on appelle ça un concile œcuménique, pour l'époque, parce que œcuménique, normalement, c'est tous les évêques de la chrétienté. Mmh. Maintenant,
c'est toutes les
religions. Le sens a un peu changé. Mmh. Ouais. C'est toutes les religions monothéistes, en gros.
Okay.
Mais à l'époque, c'est vraiment que les évêques chrétiens qui se réunissent. Mmh. Et donc, on va se réunir, on va définir le dogme. Alors, qu'est-ce qu'on croit, qu'est-ce qu'on croit pas, qu'est-ce qu'on peut faire, dire, manger, ou qu'est-ce qu'on n'a pas le droit, tout ça. En gros, on va définir la notice d'utilisation de la religion.
C'est joliment dit.
Et dans les réunions, forcément, comme dans toutes les réunions, on n'est pas tous d'accord.
Mmh. On n'est pas tous là, déjà.
Alors, ouais, ça, on y reviendra un petit peu. Mais quand on n'est pas d'accord, souvent, il y a un groupe qui ne va pas être d'accord. Et souvent, ça va être le moins nombreux dans le concile. Il va être déclaré hérétique. Parce qu'en fait, il va faire le choix de ne pas suivre la majorité.
Mmh. Okay.
Et choix, en Grèce, ça se dit aérésis.
Oh.
Choix, aérésis, hérésie. Oh. Voilà, je pense que vous faites le lien. En gros, juste, une hérésie, c'est faire le choix de ne pas suivre le dogme général.
Ah, mais c'est pas une insulte, en fait, hérétique.
Ah, bah oui.
Bah non, c'est pas... Mais le truc, c'est qu'on peut pas se dire nous-mêmes hérétiques.
Ah, merde.
Tu accuses toujours l'autre d'être hérétique parce que c'est lui qui fait le choix de pas suivre la bonne voie, en gros.
Ok. Mmh.
Mais la bonne voie, c'est la voie de la majorité.
C'est souvent ça, mais oui. La majorité se décide... Enfin, je vais donner quelques exemples après, mais la majorité va décider par rapport à des réflexions sur les textes et... Il y a des trucs assez compliqués, n'hésitez pas à m'arrêter si je... pour la suite, mais t'inquiète avec pas. Des exemples, ça va être plus simple, je pense.
Ah, t'inquiète même pas.
Du coup, Mélenchon, il est grave hérétique, mais...
Du coup, je vous demande, qu'est-ce que vous connaissez comme hérésie ?
Les sorcières.
Ouais.
La sorcellerie, plutôt.
Ah bah déjà, Jésus ! Ah ah !
Pourquoi Jésus ?
Oui, Jésus, c'est...
Ah, alors, c'est grave un hérétique.
C'est un total hérétique.
C'est devenu un hérétique...
Ah ah !
Un juif hérétique, si tu veux.
Ah oui,
mais...
bah...
Chez l'église chrétienne, est-ce que vous connaissez des hérésies ?
Ne pas reconnaître le...
Enfin, comme courant.
Le blasphème.
C'est bah les protestants étaient considérés comme hérésies.
Ouais, les protestants.
Les calvinistes.
Ouais, regarde pas, je sais pas.
Bah, du coup, les protestants et calvinistes, ça arrive super tard.
Plus tard, ouais.
Et c'est pour ça que je vous repose la question que je vous avais posée au début. Pourquoi est-ce que...
Mais parce qu'il n'y a pas d'unité avant. Parce que pour qu'il y ait hérésie, il faut qu'il y ait une unité dont on se détache. Et donc, s'il n'y a pas d'unité, non ?
Il y avait une unité, je crois, mais il n'y a pas eu des débats justement sur la condition divine de Jésus et je crois que tout le monde n'avait pas été d'accord là-dessus à cette époque-là. Il me semble que
je vais vous expliquer un petit peu tout ça.
Avec la Triforce et tout.
On a un peu les bases. Et donc, je vous redemande, avant 1054, combien est-ce qu'il y a d'églises ?
Une seule.
Bon, on va y revenir.
Non,
j'avoue.
Mais s'ils se rassemblent tous pour faire un seul concile, les gars, c'est qu'ils vont se mettre d'accord sur un seul truc.
J'ai mis ici répondre une seule, donc je vais lire cette phrase que j'ai écrite quand même. Je suis un peu une prostitute, parce que pour savoir combien il y a d'églises avant le schisme de 1054, il faut aller lire les comptes rendus de concile pour voir combien de groupes de chrétiens ont été déclarés hérétiques.
T'es en train de dire que tu pas pètes au visage depuis tout à l'heure.
Ouais, c'est un petit peu ça.
Génial.
Du coup, je vais vous faire un petit listing de conciles, je crois que j'en ai choisi 5, qui posent les bases vraiment de la religion chrétienne.
Allez. Alors, NWA.
Oui,
Nicée.
En 325, on a le premier concile de Nicée. On va condamner quelque chose qui s'appelle la gnose. Alors, la gnose, en gros, c'est le fait...
Tu as totalement perdu, Hicham.
T'as utilisé trois mots à...
Excuse-moi, vas-y, redis-moi.
Agnose de Nicée. Alors, quoi ?
Nicée, c'est une ville.
Ah.
Donc Nice. Donc,
325, on a le premier concile de Nicée.
Okay. Mmh.
Et on condamne la gnose. Et la gnose, c'est le fait de considérer que l'âme vient du divin et que le corps vient du malin.
Ok.
Ce qui fait que on considère que l'être humain, c'est un duel entre le bien et le mal. C'est considéré comme hérétique. Alors, à l'époque, il s'embrouille un petit peu, il dit juste non, ça c'est hérétique. On a Saint-Augustin plus tard qui va revenir sur le sujet et qui va dire, mais en fait, si le bien et le mal se combattent dans le corps, mais que Dieu ne gagne pas, si le bien ne gagne pas, ça veut dire que Dieu est imparfait.
Aha.
Donc, c'est vraiment hérétique, ça, il faut les dégager.
Dégage-moi ça tout de suite.
Au concile de Nicée, on va aussi excommunier Arius, qui est quelqu'un qui a créé l'arianisme. Donc, pas l'arianisme le Troisième Reich, l'arianisme chrétien. Et en fait, sa doctrine ne va pas suivre le droit chemin du reste de toute la chrétienté. Pour résumer l'arianisme, en gros, Dieu a créé Jésus.
Jusque-là, tout va bien.
Vous êtes d'accord ?
Oui. Je dirais pas jusque-là, mais vas-y, je te suis.
les Ariens disent que si Jésus a été créé par Dieu, si moi je crée une figurine en terre cuite, bah, elle est moins importante que moi.
Ah, donc Jésus serait pas aussi important que...
Voilà. Bah ouais, sauf que le dogme chrétien dit que le Christ est de même nature que Dieu.
Ok.
Donc, c'est un peu le bordel, parce que si le Christ est subordonné à Dieu, ça veut dire que Dieu est subordonné à lui-même et ça commence à créer une spirale un petit peu de...
Alors que
moi je le comprends, Arius, parce que c'est flou quand même cette histoire. Moi, c'est
flou,
du Père,
justement.
Du Fils, du Saint-Esprit qui sont la même et unique personne, ça, moi j'ai jamais vraiment compris depuis toute petite. Hein.
Les conciles sont là pour régler ce problème-là. Et donc, si Jésus il est de nature divine, mais qu'il est subordonné à Dieu, niveau puissance du Fils, c'est pas tip-top, donc ils se sont dit, non, Arius...
Hérétique.
Ouais, allez, boum, t'es viré du jeu, tu dégages. En 381, on a le premier concile de Constantinople. Alors Constantinople, tout le monde voit où c'est.
Oui, l'Ouest d'Alger, ouais.
On va remettre une petite couche sur les Ariens parce qu'ils sont toujours présents et puis parce que leur doctrine continue à s'étendre. Ils ont créé 3-4 groupes différents qui se basent sur leur doctrine, mais ils ont changé un peu quelques options. Je ne sais pas toutes détailler parce que sinon c'est chiant, on va pas se mentir. Et on va définir que le Saint-Esprit doit être vénéré comme le Père et le Fils. Donc c'est vraiment à la fin du IVe siècle où on va dire que le Saint-Esprit, c'est divin.
Okay.
Jusqu'à là, on ne savait pas trop. On se disait, ouais, bon, on parle du Saint-Esprit, mais on y croit un peu comme les autres. Mais est-ce qu'on le met exactement de la même nature que le Père et le Fils ? Là, on dit oui, voilà, okay. Tout simplement. 431, premier concile d'Éphèse, on va condamner le nestorianisme.
Ah, je veux dire.
Nestorius, un bon gars, qui a des idées un petit peu déviantes, notamment sur la nature du Christ. Alors, t'en as parlé, Camille, tout à l'heure, le Christ est un petit peu galère niveau nature, parce qu'il est fils de Dieu et fils de Marie. Du coup, les chefs religieux se sont posé la question, bon, il est sympa le bouquin sur lequel on bosse, mais là, Jésus, nature divine, il est humain, il est Dieu, il est aucun des deux, il est un peu les deux. Bon, le consensus de l'Église chrétienne, c'est qu'il est les deux. On va y revenir tout à l'heure, c'est très très compliqué à comprendre.
Ouais.
Et Nestorius, c'était un peu compliqué à comprendre pour lui, du coup, il s'est dit, attends, Jésus, il est mi-homme, mi-Dieu.
C'est un demi-dieu.
Du coup, les deux natures, elles sont séparées. On appelle ça le duophysisme.
Okay.
Pour lui, dans Jésus, il y a moitié homme, moitié Dieu,
moitié
robot. Sauf que le souci, c'est que l'Église, elle dit que Dieu et Jésus sont de même nature. Du coup, si Jésus, il est mi-homme, mi-Dieu, ça veut dire que Dieu, il est mi-Dieu, mi-homme.
Ok, ah oui. Il a fait une parallèle mathématique par inversement proportionnel.
Il s'est foutu dans la merde tout seul.
Ouais, il a un petit peu chié dans ses équations. Et donc, l'Église a dit, ouais, non, bah... ils réfléchissent vraiment sur la nature.
Ils lui ont dit, bah, reste dans cette pièce, nous, on va se réunir dans l'autre. Plutôt.
C'est ça. Du coup, ils l'ont déclaré hérétique. Et l'arianisme, c'est quand même resté un courant assez important de séparation partie divine, partie humaine. En 451, on a le premier concile de Chalcédoine. Alors, c'est une partie d'Istanbul.
Hicham, il rigole, il croit que c'est un fromage.
Une salade, non ?
Hicham, c'est vraiment le sujet là où on l'a perdu.
Oui, mais n'hésite pas à poser des questions. On en parlera après si tu veux.
Chalcédoine.
Je vous l'ai dit, du coup, le duophysisme.
Je viens de comprendre la salade, du coup.
Ouais, t'es pas si drôle que ça.
Et tu sais quoi, tu vas aller faire ton conciliabule dans ta pièce à côté.
Bon, bah, Hicham hérétique, voilà.
Ouais, Hicham, non, mais il sera peut-être hérétique à la fin, c'est à lui que je vais poser les dernières questions. On verra. Donc, je l'ai dit, on a le duophysisme total, comme le prône Nestorius, donc une partie divine, une partie humaine. Mais on a l'opposé qui s'appelle, Hicham, le.
Le duo-humanisme.
L'électromagnétisme.
Le monophysisme. Et le monophysisme, c'est proposé par un mec qui s'appelle Eutychès. On va pas se mentir, hein, il s'est vite fait botter le cul parce que c'est aussi un truc hérétique. Mais en gros, les monophysites, ils disent bah, puisque dans le Christ, il y a une nature divine et une nature humaine, et que la nature humaine, elle est forcément moins forte, bah, la nature divine, elle bouffe la nature humaine, et puis comme ça, bah, Jésus, il est de même nature que Dieu.
Sauf que nous, vu qu'on est à l'image de Dieu aussi, bim, on est des dieux aussi.
Non, le problème, il est fumeur de joint, ça, surtout.
Le problème, il est beaucoup plus profond que ça. C'est que Jésus peut pas être divin 100% pur jus, parce que il se sacrifie sous forme d'homme pour le salut des hommes, de ses semblables.
Ok, ouais.
La crucifixion est vue comme un sacrifice pour le salut des hommes. Mmh. Du coup, si Jésus, il est pas homme, il c'est sacrifie pas ses semblables. Pour personne, et du coup, il y a pas de salut pour l'humanité.
Ce qui serait pas cool.
Et ça pose un peu problème à l'Église, parce que comme on est censé utiliser l'Église et puis lui verser un impôt et tout ça pour assurer le salut de tout le monde.
Ils ont porté la croix sur 600 mètres aussi.
Voilà, c'est un petit peu le problème. Du coup, le Concile va dire, et là je vais citer une phrase du Concile, le Concile anathématise ceux qui inventent la fable de deux natures du Seigneur avant l'union, mais n'en imagine plus qu'une seule après l'union.
On va juste faire une pause, il y a Hichem qui fait un AVC.
Alors, anathématise, l'anathème, c'est l'excommunication.
Attends. Fais pas genre que tu savais ce que ça veut dire. Hein.
Okay. Non, mais j'allais l'expliquer. En gros, anathème, excommunication. Si vous êtes un homme d'église, c'est qu'on vous montre le golden ticket du paradis, on vous le déchire, on vous crache à la gueule, on vous dit bah t'iras jamais.
Ah, ok.
C'est clair là. C'est joliment dit.
Ça, c'est un petit peu ça. Ouais, j'ai mieux après. Du coup, je suis un petit peu long. Il y a toute une profession de foi, je vais pas vous la lire, mais dans ce concile-là, ils définissent vraiment ce qu'est Jésus, et ils disent, voilà, Jésus, il a une part de nature divine, une part de nature humaine, et en fait, il a les deux, il est à la fois homme, à la fois Dieu, et posez pas de questions, parce que c'est chiant.
Il est un peu joucon lors de Bolas.
Premier qui sa gueule, il est excommunié.
Voilà, il a les deux en même temps, mais elles sont pas séparées, elles sont pas liées, il y a les deux.
Tu vois, j'avoue, ça fait quand même 400 ans qu'ils sont là-dessus, de se dire, non, mais c'est relou, là. Enfin...
Mais attends, c'est pas fini. Bah, du coup... Je vous le résume, en gros, le Christ, c'est pas un mec mi-homme, mi-dieu, il est tout simplement homme et divin à la fois. Okay. Il n'y a pas de mélange, il n'y a pas de séparation.
C'est comme manger son gâteau et le garder à la fois.
Pour le définir un petit peu mieux sur la nature humaine ou divine, c'est un peu comme définir la raclette. Tu peux pas dire la raclette, c'est du fromage et un truc fondu. Non, la raclette, c'est les deux à la fois. Tu vois. Oui. Et bah, Jésus, c'est pareil.
Charcuto lacté.
Jésus, c'est comme la raclette.
Jésus est charcuto lacté.
En gros, Jésus, il a à la fois le verre à moitié vide et à moitié plein.
À la fois le fondant.
Non, parce que
fromage.
Là, t'as une séparation. Donc, ça, c'est ce que l'Église veut pas. Là, tu fais du duophysisme. Donc, tu vois, t'es.
Je suis exclu. Allez, désolé, tu vas aller deux fois en enfer déjà.
C'est comme la cancoyote, c'est pas du fromage et du mastic. C'est du fromage et du mastic à la fois.
Et voilà, mais Jésus, c'est un peu la pâte à crêpes. Tu vois, c'est quand les œufs et le lait. Enfin,
oui, voilà, exactement. C'est pas des œufs et de la farine et du lait, c'est de la pâte à crêpes. Donc, voilà. C'est un ensemble de tout indissociable.
Avec ou sans grumeaux?
Bah, sans
grumeaux,
il est parfait. Bah, il est pas vraiment parfait, tu peux mettre des grumeaux quand même, parce qu'il est quand même, il a le côté imparfait de l'humain.
Des fois, il est un peu en colère et tout, donc tu peux mettre un ou deux grumeaux.
J'ai envie de crever là tout de
suite. Bon, il reste deux conciles, j'en ai viré deux, trois qui me semblaient un peu moins importants.
Allez, concilions.
En 680-680, on a le troisième concile de Constantinople. J'ai viré le deuxième, parce que je sais plus ce qu'on y fait.
Voilà,
c'est ça. On condamne un nouveau truc, le monothélisme.
Ah, wow. Pas le monothélisme.
Et ça, c'est un truc, à la base, c'était génial. C'est une idée qui est assez chouette, ça sert à unifier toute la chrétienté. En fait, tous les mecs qui se sont virer...
C'est pas mal, ça.
Tous les mecs qui se sont fait virer avant sur 400 ans de concile, il y a un gars qui est arrivé et qui a dit, mais en fait, la nature, qu'elle soit humaine ou divine, on s'en bat les couilles.
Ce qui compte,
c'est la volonté. Et la volonté, elle est divine. Du coup, tous ceux qu'on a excommuniés, il faut les ramener.
Et alors, je dis, Michel, pose ton pétard, allez, va balayer la cour.
Sauf qu'en fait, le clergé. Voilà, je veux pas trop
ils
spoiler la suite.
Les
niveau réunification, ça a foiré parce
une trappe
que.
Direct.
Le concile a dit, non, en fait, tout comme la nature, la volonté, elle est double. Il y a une volonté humaine et une volonté divine. Donc
mais
ton
ils
idée...
ont pas tout à fait tort. Hein.
J'imagine trop le mec qui a fait son discours qui était trop fier de lui. Et il y a juste un gars qui s'est levé qui a fait. Bah non.
Donc ils finissent par dire, voilà, il y a deux natures, il y a deux volontés, elles sont ensemble, point final, arrêtez de faire chier, quoi. Et le dernier concile, alors, moi qui me fais un peu marrer, il parle pas vraiment de légiférer sur un dogme, mais ça a été les... Non, en plus, c'est pas le dernier, je suis désolé. Là, c'est le deuxième concile de Nicée en 787. C'est simple, il y a eu un combat entre les iconoclastes et les iconodoules. iconoclaste, dire un truc la de destruction Star Trek. Des effigies. Alors, ça, mais c'est un truc qui est assez fun. Mmh. C'est que il y a des gens qui se sont dit, surtout côté oriental, il faut détruire toutes les représentations de Dieu. Mmh. Parce que dans l'Ancien Testament, il nous dit bien tu ne peux pas donner mon nom, tu vénéreras pas d'idole. Et tout quoi. Donc les gars ont commencé à péter toutes les représentations de Dieu et de Jésus, parce que c'est Dieu, Jésus, on l'a défini. Tu vois. Et le concile a dit, ouais, mais attendez les gars, ça se trouve, on décore nos églises avec Jésus en statue, en peinture, mais comme Jésus, c'est à la fois homme et Dieu, est-ce qu'on n'est pas en train de faire une grosse connerie? On va tous finir en enfer, parce que
c'est génial. Vénère, là,
et
c'est pas con, hein.
Ils ont expliqué, pendant ce deuxième concile de Nicée, je vais résumer, hein. En gros, ils ont dit, bah, si Dieu n'avait pas voulu qu'on le représente, il ne serait peut-être pas présenté à nous sous les traits de quelqu'un.
Ah, bah non, mais ça n'a rien à voir.
Bah, ils l'ont géré comme ça. Ils ont dit,
ça fait un peu argument harcèlement. Bah, si elle voulait pas qu'on lui touche le cul, elle passe foutre en jupe. Hein. Oui, bah, marche pas comme ça, Michel.
Bah là, ils ont dit, voilà, s'il n'était pas venu sous la forme du fils, on n'aurait pas su comment le représenter. Donc s'il est venu, c'est qu'il nous autorise à le faire. C'est QFD, et puis on met ça sous le tapis, on en parle
les
plus.
Les musulmans sont pas tout à fait d'accord avec ça, mais...
Mais du coup, l'iconoclasme a été déclaré hérétique.
Mais par contre, j'aime bien, si on garde la métaphore de la pâte à crêpes, que personnellement je trouve plutôt claire, j'espère que pour vous aussi, mais c'est-à-dire que c'est comme s'ils avaient dit genre, allez, on veut pas d'œufs dans les églises. Et là, t'as le mec qui dit, ouais, mais on a mis de la pâte à crêpes dans l'église. Est-ce que ça serait pas un peu des œufs dans l'église? Et là, tu fais, ah.
Il y a un petit peu de ça, ouais, clairement.
Ouais. Donc, ouais. Du coup, faut-il mettre de
pas
la pâte à crêpes?
Pas éclairci grand-chose, mais oui.
Mais non, mais du coup, j'adore cette métaphore, pardon.
Enfin, Maïté approuve ce sujet.
Du coup, un dernier petit concile, là, qui gère pas vraiment le dogme, mais qui est à l'origine, à mon avis, à l'origine un peu des débuts de schisme. En 869-870, on a le 4e concile de Constantinople, et c'est un gros bordel politico-religieux, et c'est le dernier concile qui est respecté par les chrétiens orthodoxes. En gros, à Constantinople, on a un patriarche, c'est un peu le premier ministre du pape. Et l'empereur byzantin de l'époque s'appelle Michel III dit l'ivrogne.
Michel, oui, très bien.
Michel III dit l'ivrogne.
Voilà. C'est bon, il Michel va dégager le patriarche de Constantinople et il va mettre un de ses potes à la place qui s'appelle Photios. Sauf que Nicolas Ier, le pape de l'époque, il n'aime pas trop qu'on dégage son premier ministre sans lui demander. Et donc il va dire non, je valide pas cette nomination parce que vous faites de la merde, les gars. Donc Photios, il va faire un concile et il va excommunier le pape.
Ah, c'est bon ça!
Donc c'est un
cheat code,
la merde, tu vois,
ça marche pas.
Donc on a tous les évêques orientaux qui vont valider le fait d'excommunier le pape parce que Photios c'est leur pote, et puis le pape qui va être là comme un con en mode mais non.
Non ouais, mais je suis le chef de vous. Bah,
hiérarchiquement je suis au-dessus, tu peux pas m'excommunier. Enfin si, tu dégages, tu vas en enfer et tout.
Et du coup ça marchait?
Bah le fait est que et Nicolas Ier et Michel III dit l'ivrogne sont morts.
Dans des circonstances.
Ouais, c'est ça.
Du coup, les suivants ont invalidé ce concile de Photios et puis ils ont dégagé Photios.
Ça a l'air tellement compliqué.
Ils ont résolu ça un petit peu. Voilà, ça sera invalidé. Et il y aura, après le schisme, un nouveau concile qui va invalider l'invalidation.
Wow.
Là, ça devient un peu Game
ça,
of Thrones.
Ça, je
style,
savais ça.
Voilà. Mais j'avoue, mais c'est où? Mais en vrai, avant, si on me posait la question, où est-ce que si tu devais revenir dans le passé, t'irais où? Moi, je pense que j'irais à ces réunions-là pour les faire chier.
Genre, il y a pas mal de temps entre les différentes réunions.
Est-ce que Jésus serait pas de la pâte à crêpes par hasard? Et là, peut-être tu lui laisses réfléchir. Après, tu reviens 50 ans plus tard, en mode attends, mais on avait dit pas d'eau dans l'église là, pourquoi on a mis de la pâte à crêpes?
Bim. Tu te ferais excommunier seconde 1 déjà.
Ouais, mais
il faut que t'aies un statut hiérarchique assez élevé ou que t'aies écrit des trucs quoi.
Puis t'y vas pas en short.
Tu vois, ce genre de bataille entre les patriarches et le pape, il y a des récits où t'as des moines qui vont se faire un Gangs of New York sur des places de marché.
Putain, coup de savate et mûre.
Côté empire byzantin.
De dur avec des coups de chapelet.
Parce que t'as des moines qui suivent le pape, des moines qui suivent tel patriarche, et le mec se marave pour savoir qui est-ce qui gagne.
Et ton pape, il porte des sandales.
Et c'est des moines. Du coup, maintenant, je vous repose la question, combien est-ce qu'on a d'églises, qu'on peut appeler aussi courant hérétique, avant 1054?
Eh bah, ben, beaucoup, du coup. Hein.
Bah, du coup... sérieux, vous avez pas pris de notes sur...
Bah, t'as dit que.
Non, je déconne. Moi non plus, j'ai pas pris de notes.
Il y en avait pas.
Et c'est ce que j'allais dire. Bim, tu vois qu'on suit. On écoute tout.
Non, moi, j'ai... du coup, il y en a quand même un gros paquet, j'ai pas compté non plus. Mais je vous pose la question centrale, pourquoi est-ce qu'on parle pas, en Occident, d'hérésie avant le Moyen-Âge central?
Bah parce qu'on se place du point. Pourquoi on parle pas d'hérésie?
Parce qu'on était peut-être pas au courant de tout ça, ça restait pas en interne.
Il y a pas vraiment d'église unifiée aussi.
Tu te rapproches, Rouen.
Bah ouais, je pense que c'était consigné en interne, mais
imaginez une carte,
avec eux qui étaient au courant.
Et puis placer sur la carte les endroits où sont placés tous les conciles. Nicée, Constantinople, Éphèse et Chalcédoine.
Bah, c'est que aux alentours de la Grèce et de la Turquie.
C'est que en Turquie.
Ouais, c'est ça.
Ah.
C'est que en Turquie actuelle. Ah. Et en fait, entre l'Occident et l'Orient, il y a deux manières de penser la foi à toute l'époque antique. Côté oriental, on se dit plutôt, en vrai, le divin, qu'est-ce que c'est ? Et côté occidental, on va dire, comment est-ce que je peux servir le divin ? Mmh. Et le questionnement de qu'est-ce que c'est le divin fondamentalement ? Déjà, c'est compliqué, on a vu là, c'est pas toujours facile de s'imaginer, bon, de réfléchir à comment on définit le divin. Alors imaginez quand vous êtes convoqué à ce genre de réunion et que les mecs, ils parlent tous grec et que vous, non. C'est compliqué.
J'avoue.
Et la plupart des évêques occidentaux, ils parlent pas un mot de grec. Du coup, ils y vont au début pour faire genre, et puis après, ils y vont plus.
Ah, puis en plus, c'est sans alcool, donc.
Du coup, ouais, ça, je sais pas. Quand t'as des moines qui commencent à se marrer sur les places de marché, à mon avis, les gars, ils ont pris des forces avant. Donc, on n'entend pas vraiment parler de ce genre d'hérésie, tout simplement parce que l'hérésie n'arrive pas jusqu'à nous, parce que c'est pas traduit du grec au latin, et les évêques latinistes se bougent même plus pour aller se renseigner sur comment se passent les conciles.
C'est limite à un mec qui s'est fait têche à couper au cul de la réunion, quoi, finalement.
C'est un petit peu ça. Ils en sont venus à avoir la flemme de se bouger jusqu'en Turquie pour assister à des réunions dans lesquelles ils comprenaient rien. Et c'est pour ça que, avant l'an 1000, on parle pas vraiment d'hérésie par chez nous.
Je crois que j'aurais fait pareil.
Voilà.
Top, merci, c'était ouf, trop intéressant.
Yes, faudra que je le réécoute en vrai.
Ouais, non, mais là, j'ai essayé d'être concis.
Non, c'est hyper intéressant, mais c'est complexe quand on maîtrise pas le sujet. Ouais. Moi, j'y connais pas grand chose. Faut s'accrocher, mais c'est hyper intéressant.
T'aurais pu faire quelques efforts quand même.
C'était si jamais vous avez des questions.
C'est méchant parce que j'ai pas retenu tous les noms, mais je trouvais ça super clair. Mais du coup, j'ai vraiment tout compris. Et
les gens pourront poser leurs questions sur la publication qu'on fera sur les réseaux.
Posez les questions, je répondrai, y a pas de souci.
Et vu que tu fais des lives, ils pourront te poser des questions auxquelles tu répondras.
Absolument.
Mais je peux faire un live sur les hérésies antiques. J'en ai fait sur les hérésies de l'an 1000. Je suis chaud.
Avec Hicham.
Avec Michel.
Ça va être bien. Bon, du coup, là, c'est pas Hicham, c'est Arwan.
Ouais, on va faire un petit. Et pourquoi ?
Mais pourquoi tu fais ça, Jack ?
Alors, pourquoi, bon Dieu ?
Pourquoi, quoi ?
Ben pourquoi t'as fait ça, quoi ?
Pourquoi tu dis ça ?
Pourquoi ?
Pourquoi faire ?
Pourquoi je suis corrompu ?
Mais je sais très bien pourquoi !
Pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que y a bam 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 bam. Et tac, tac, tac.
Pourquoi ?
Pourquoi ?
Pourquoi ? J'ai hâte de savoir.
Pourquoi on dit une chauve-souris
alors qu'elle n'est pas chauve ?
Et que c'est pas chauve.
Et que c'est pas une souris.
Alors, c'est vraiment ça ton sujet.
Eh oui, c'est vraiment ça mon sujet.
Alors, traduction, a bald mouse.
A bald mouse, oui, mais c'est pas un animal anglais.
Je cherche. Parce qu'elle s'accroche dans les cheveux et quand t'es chauve, elle peut pas s'accrocher.
Non, théorie intéressante, mais pas du tout. Alors, c'est assez simple.
Ça vient de Batman ?
Non plus.
Est-ce que ça a un lien avec Nestorius ?
Nestorius, oui. Ouais. Oui, bah en fait, la première chauve-souris s'appelait Michel. Elle a été excommuniée. Elle s'est barrée à tire d'aile. Le terme de chauve-souris, ça vient d'une altération d'un terme grec qui est kawa sorix, qui fait aussi un peu nom de gaulois.
Ou de moto japonaise.
Kawa.
Ou de marque de café.
De café ?
Kawa.
Ah, le kawa sorix. Je n'achèterai pas de café qui s'appelle sorix. Toujours est-il que ça vient du grec. Et ça ne voulait pas dire kawasorix, ça ne voulait pas dire chauve-souris. Mais ça y ressemble un petit peu.
Un peu.
Un chouïa.
Ça voulait dire chouette souris.
Ah.
Et ça ressemble
c'était des chouettes qui souriaient
chouette souris.
Alors, c'était pas qu'elles étaient particulièrement sympathiques ou qu'elles souriaient, ça voulait dire chouette-souris. Pourquoi ? En effet, parce que la chouette vit la nuit et une chauve-souris, ça vit la nuit. Jusque-là, ça va.
Et du coup, c'est comme une souris de la nuit.
Et qu'en effet, ça ressemble quand même une chauve-souris un petit peu à une souris.
Avec des grosses ailes.
Dans chauve-souris, c'est jamais la partie souris qui m'a choqué, c'était plus la partie chauve parce que ça a généralement des poils. Et donc, à la base, déjà, quand on dit chauve-souris, c'est une mauvaise traduction, ça viendrait de calvasorix, ce qui veut dire chouette-souris. Donc, à la limite, on pourrait dire chouette-souris.
Mais,
la bonne appellation pour ces animaux, vous la connaissez peut-être, c'est chiroptère.
Oh putain, j'avais pas là.
Alors, on va repartir sur du grec, du coup.
Chiro, qu'est-ce que ça veut dire, chiro ?
C'est quoi chiro en grec ?
Les os.
C'est la main.
C'est la main,
ah, putain, exactement.
Exactement.
Oui, parce que leurs ailes, c'est des mains, c'est ça, non ?
Et ben en fait, ptère, c'est.
C'est volé, non ?
Ptère, c'est les ailes, en fait. Hein.
Ouais, voilà.
Et donc c'est les.
Ah, ils ont des ailes pour des mains.
Et oui, en effet, les mains, les ailes des chauves-souris, ce sont leurs mains finalement, avec des doigts très allongés. Donc chiroptère, les mains ailées, on va dire, ce serait l'appellation la plus correcte.
Mais ça explique toujours pas le chauve.
Eh ben si, je viens de te dire que c'était une erreur de traduction.
Oui, quand elles applaudissent, faire du vent, oh, le bordel.
En fait, à la base, le terme grec, c'était kawasorix, qu'on va déformer en calvasorix.
Exactement.
va faire une marque de moto.
Il écoute rien, de gagner du temps.
Mais non, mais il écoute rien, lui, là. Et donc, petite info bonus pour finir, les chiroptères se divisent en deux catégories.
Ah, les frugivores.
Alors, oui, c'est pas de ces catégories-là que je parle. Les micro-chiroptères. Et les...
c'est pour la radio, c'est ça.
Et putain, vraiment, c'était pas très drôle, ça. Les micro-chiroptères et les méga-chiroptères.
Bah, les petites méga... et les grosses.
Bah ouais. C'est simple que ça. Méga, parce que la plus grosse chauve-souris du monde, elle mesure quand même jusqu'à 2 mètres d'envergure.
Non. Ouais, puis elle, c'est pas et mal. Puis elle a une base.
Quand tu,
hein.
Attends, quand tu dis d'envergure, c'est
le wingspan.
Oui, voilà.
Mais les frugivores.
Non, mais c'est pas.
Elle est frugivore, la plus
grosse. C'est pas une chauve-souris, c'est un vautour, là. Fin...
C'est une chauve-souris.
Mais là, tu me parles de Batman, hein. Il y a toute une série dessus, c'est bon. Quoi.
Mais non, c'est le Acerodon jubatus.
Ça vit où que je n'y aille pas qui...
Le Acerodon jubatus, ça vient des Philippines.
C'est préhistorique.
Non, mais par contre, on l'appelle le renard volant des Philippines. Ce qui nous ramène, au problème initial, puisque c'est pas un putain de renard non plus. Mais en effet, il a une robe légèrement rousse, slash dorée. Et il a un peu une tête de renard, vous en avez sûrement déjà vu en fait en photo, parce que ça fait flipper une chauve-souris de 2 mètres, mais en fait, c'est extrêmement mignon. Quand on voit la tête du truc, et en plus ça mange des fruits. Enfin, vraiment, on est sur, on est sur un renard avec des ailes. Voilà, donc dites chiroptère hein, si vous voulez, dites chouette-souris, mais chauve-souris, vous pouvez utiliser le terme. Ça ne veut plus tant de rien dire. Bien à vous.
Bah, très bien.
Merci. Très clair.
Ouais.
Très bien.
C'était chouette.
Oh ouais. C'est marrant.
Excellent.
Ça.
Allez, fais-nous rire.
Allez.
Et ça a intérêt drôle du coup.
Ils savent plus quoi avancer.
Eh bien, c'est une merveilleuse invention.
Ça ne sert à rien.
D'après vous, le concours Lépine date de quand ?
1919.
Ouais, ouais.
Next.
Non. Ah merde, on doit vraiment donner les
dates. Moi, je dirais un peu avant.
Ouais.
Je dirais 1895.
Uh-huh. Moi, je dirais 1908.
Uh-huh. Je dis 1888, mais c'est juste pour Jack l'Éventreur.
Très bien.
Bah, c'était 1901.
Ah,
voilà.
Mais on est kiff-kiff, ouais, je crois.
Kiff-kiff.
Non, je crois que t'as un de moins. C'est Camille qui a gagné. Elle a gagné
quoi ?
Que dalle. On revient un tout petit peu en avant. On est en l'an 1900. Les entreprises étrangères commencent à arriver en France et donc les boîtes françaises souffrent de la concurrence, surtout des boîtes allemandes. Le pire, c'est que les boîtes françaises sont mondialement connues pour les qualités et leurs inventivités. Mais ça ne suffit pas. Donc, qu'est-ce qui se passe à votre avis, vu qu'il y a de la concurrence ?
Bah, il faut faire un concours Lépine.
Espionnage industriel ?
Pas vraiment.
Non. Ah.
On essaie de redoubler de créativité, on essaie de proposer des choses
différentes. Protectionnisme, on injecte de l'argent dans les boîtes françaises ?
Non, non. Il y a juste en fait des vendeurs à la sauvette qui s'installent dans tout Paris.
Ah.
Et surtout dans une petite place que ceux qui habitent à Paris connaîtront probablement, c'est le marché aux fleurs. Reine Elisabeth II, bon, qui s'appelait pas comme ça à l'époque.
Tu m'étonnes. Je sais qu'elle est vieille, mais quand même.
Mais donc, en gros, en fait, c'était un peu comme les vendeurs à la sauvette qu'on trouve à la Tour Eiffel, où ils revendent des toutes petites Tours Eiffel. Sauf que c'était pas
la
Tour
Eiffel.
Ah, c'est pour ça. Ils vendaient des petites reines Elisabeth.
Non, mais bien sûr, c'était pas encore les Tours Eiffel parce qu'elles n'existaient pas. Mais en gros, ils vendaient des petits jouets ou des objets sans valeur. Et ça arrangeait pas du tout les commerçants. Et là, vous devez vous dire, mais pourquoi est-ce qu'il nous parle de tout ça ?
Pourquoi tu nous parles de tout ça ?
Exactement, alors... très bonne question. C'est là où intervient Louis Lépine. C'est le préfet de police de Paris à cette époque.
Mais c'était. Mais d'accord, c'est le même Lépine. Mais c'était une énorme enflure, ce mec.
Ah bon ? Pourtant, oui, oui. Il est bien vendu.
Non, mais en termes de
sur le site.
Coucou Lépine. Non,
je crois que c'est lui qui avait plus ou moins donné autorisation de la naissance de la brigade des voltigeurs et puis de jeter de l'eau très très forte sur les manifestants, ce genre de truc. Enfin, bref.
Peut-être.
C'est ce truc qu'on a arrêté de faire.
Bah, je sais pas, moi, il avait...
Ambiance.
Il avait l'air cool parce que c'est, c'est lui qui a d'abord commencé par créer ce qu'on appelle les hirondelles. Les hirondelles. Ça vous dit rien ?
Tout à fait.
Non.
Si, c'est les jeux là, non ?
Non, pas du tout. Absolument
c'est
pas.
C'est pas les jeux dématérialisés sur Steam, par exemple, les hirondelles.
Oh, putain.
Non, non, c'est juste la brigade de police à vélo. On les appelait comme ça parce qu'ils roulaient sur des vélos de la marque Hirondelle.
Très bien.
Mais je confonds peut-être avec un autre Lépine, préfet de Paris. Hein.
Attends, mais les Hirondelles,
non, parce qu'il a fait des brigades, les voltigeurs. Donc, il a créé une brigade à vélo.
Ouais, c'est mais, ça, c'est une brigade à vélo avec les matraques.
Est-ce que, ouais,
ce qui me choque quand tu dis ça, c'est que au lieu d'intensifier les rondes de police où ils demandent de tout casser et tout, ils décident de créer un concours, exposition, où on va exposer et faire un concours avec des jouets et des petits objets décoratifs pour à la fois donner la visibilité à ces commerçants, mais aussi pour réglementer le commerce de rue.
Ok.
Et donc,
j'ai du mal à voir la stratégie derrière ça, mais...
Ça fait travailler des gens. Ça okay, fait, ok, voilà.
Moi, j'ai du mal à voir en quoi ça en ferait un bon être humain d'avoir une bonne idée.
Non, mais arrêtons de nous concentrer sur le fait que j'ai dit que c'était peut-être un mauvais être humain, parce que du coup, on est en train de totalement désorienter.
Mais non, après, moi, je le protège pas, je le connais pas.
Hérétique.
Hérétique.
Vas-y, vas-y.
Bref, donc, on est en octobre 1901. Et là, Monsieur Lépine, il publie des annonces dans les journaux pour attirer un maximum de candidats. Sauf que les gens, ils n'étaient pas du tout motivés. Il n'avait vraiment personne. Du coup, son adjoint, il a eu l'idée de donner l'opportunité de poser un brevet gratos de leur invention. Et là, hop, en novembre, il y a eu 370 candidats et plus de 700 inventions.
Pas mal.
C'est pas mal. Il y avait un jury qui est composé d'élus locaux, de scientifiques et d'académiciens. Et ils ont distribué 50 médailles pour la première édition et 7000 francs pour le gagnant, ce qui est quand même énorme.
Pas mal.
Et le gagnant, c'était un jeu de société. Je trouve ça...
C'est ouf. Mais c'était quel jeu ?
Je ne sais pas.
Ok. Dommage.
Un mot de qui ?
Non.
C'est un jeu de dés en fait, il y avait 2 dés, une boîte et puis...
Et en fait, tous les ans, ça fonctionnait de mieux en mieux. Même pendant la guerre, le concours a continué d'exister. Et aujourd'hui...
Que des armes de présenter.
Mais aujourd'hui, si vous voulez y participer, il y a quelques conditions. Il faut déposer votre brevet pour votre invention. Il faut avoir un prototype ou une maquette sur place pour pouvoir la présenter du coup. Il faut adhérer à l'association Concours Lépine. Et aujourd'hui, j'ai regardé sur leur site, les prix varient entre 85 euros et 624 euros.
Wow.
Pour adhérer à...
Non.
À
ça, ouais. Mais qu'est-ce qui fait que ça varie ?
En fonction de si t'es un particulier ou si t'es une entreprise.
D'accord,
ou,
ok.
Voilà. Et je crois qu'il y a 5 prix différents.
Pardon, maman, on va pas concourir au concours Lépine tout de suite.
Déjà parce qu'on est con.
Et enfin, attention, parce qu'il y a des champions quand même. Il faut juste louer son stand sur le site ou sur l'exposition aussi.
Ah, mais c'est une foire d'expo en fait.
Ouais. Mais il faut aussi savoir que y a plein d'objets qu'on utilise tous les jours, peut-être pas, mais aujourd'hui, qui ont été découverts grâce au concours Lépine. Est-ce que vous en connaissez quelques-uns ?
Je sais plus comment c'est pas les tourillons du rayon, je sais pas quoi, les trucs qu'on met au bout des lacets de chaussures.
Non, suivant.
Si, je crois que c'est une invention de ouf.
Le décapsuleur ?
Non plus.
Tire-bouchon.
Le robot de cuisine.
Non.
Le fil à couper le beurre.
L'aspirateur.
L'aspirateur, oui, 1923.
Oh.
Bravo.
La pâte à fixe.
On va s'arrêter là.
La guerre.
Donc, en 1901, il y a le mouchoir en papier. Qui avant n'existe pas.
Merci la planète.
Qui a été commercialisé par Kleenex 23 ans plus tard. Mais c'est la première idée venait de ce concours-là. En 1912, il y a eu le lave-vaisselle. En 1919, le stylo bi, le bic.
Ah putain, j'avoue, génie.
En 1921, le fer à repasser à vapeur. Donc en 1923, l'aspirateur. En 1928, le four électrique. En 1948, la lentille de contact.
Oh putain, mon Dieu.
Oui.
En 1952, la cocotte minute. Et en 1956, le jeu de société, les 1000 bornes.
Non.
Pas mal.
Génial.
Mais bien que t'es dans le même concours. L'aspirateur.
Et l'anti
de contact et le 1000 bornes. Je sais pas duquel on pourrait se passer de nos jours.
Le pacemaker et les petits chevaux.
Allez.
Mais j'ai trouvé aussi des inventions, on va pas se mentir, de merde.
Est-ce que quelqu'un a dit Chinogu ?
Non, parce que le but c'était de se faire commercialiser.
Non, mais ils l'ont breveté de toute façon, donc ça ne peut pas
être. Aussi. Donc il y a un sac de plage 2 en 1 qui fait à la fois sac à dos et serviette de plage.
Pourquoi pas ?
Mais du coup, le problème c'est qu'une fois que c'est mouillé, tu peux rien mettre dedans. Quoi.
C'est vrai.
C'est pas pratique. Il y a une coupelle qui se clipse sur votre boisson, genre un gobelet de café, une canette ou un verre, qui vous permet de tenir à une seule main votre boisson et votre nourriture dans le bol.
C'est nul.
Et c'était cette année, 2019.
Mais on appelle ça des tapas, ça existe depuis très longtemps.
Non, mais en gros, c'est un truc que tu rajoutes à ton mug, et ouais, comme ça, comme si tu mettais une étagère à ton mug, quoi.
Et le truc, c'est que si tu
comme si tu mettais une assiette dessus.
Ouais, exactement.
Ce qui fait que comme, des, comme des tapas, tu vois.
Que tu vas boire dans ton truc.
Bah, t'es obligé d'en retirer le truc. Voilà, bah,
ouais. comme des tapas.
Pas tous espagnols, hein.
Il y a un ancien truc, je crois que c'était en 1940 et quelques, je sais plus, c'était la serrure anti-effraction atomique.
Quoi tu regardes dedans, ça fait une fusion nucléaire et ça te crève l'œil.
S'il y a quelqu'un qui essaye de forcer la serrure, bah.
c'est pas vrai.
Je te jure que si.
Coup, ça appelle
Kim Jong-un immédiatement.
J'ai vu une vidéo de Lina où il montre le gars.
Mort.
Il... non, mais enfin, c'est débile, c'est complètement débile.
Ah, mais partage le truc, ça va être trop bien.
Pour toi, Camille, qui est photosensible, en 1957 a été inventé les cils ombrelles.
Il me faut ça.
Les cils parapluies.
En fait, c'est des fossiles. Et je cite, indéfrisables et ininflammables qui protégeront vos yeux des rayons trop brûlants.
Oh, bah ils sont marteaux ces fossiles.
Sinon, il y a une autre invention cette fois pour nos amis. Pim pam poum, c'est la cravate magnétique. Il suffit juste de mettre le premier bouton de la chemise avec une matière qui est aimantée et hop, pas besoin de faire de nœuds.
Alors, c'est plutôt malin, par contre, aux aéroports, ça fait chier quoi.
C'est. Ouais. J'avoue.
Et puis tu vas démagnétiser ton téléphone, ta clé USB, ta carte d'accès.
Et puis ça manque de style, bordel.
Mais qu'est-ce que le style pour la pratique?
Et du coup, il y a.
Toi, tu vas porter des Crocs dans pas longtemps.
Les gagnants de l'édition 2019. Il y a Xtag, c'est une application pour les intolérants alimentaires. C'est un prix décerné par Monseigneur Macron lui-même. Il suffit de scanner le QR code sur l'emballage et hop, on sait s'il y a un aliment auquel on est allergique. Je trouve ça pas mal, mais bon.
Ouais, ça existe depuis plusieurs années déjà, sous d'autres noms.
Mais ça n'a pas été passé aux Lépines.
Voilà. Il y a le fauteuil handicapé tout terrain.
Ah, mais ça, je trouve ça ouf. C'est génial.
C'est un fauteuil roulant.
Un sucre qui peut monter les escaliers et tout. Là.
Ouais, c'est impressionnant.
Ça. Il permet de franchir tous les obstacles, genre les trottoirs, les escaliers, les
stéréotypes,
les pentes.
C'est bien, ça va permettre à toutes les administrations de ne pas respecter la loi en adaptant.
Les pentes qui ne sont pas adaptées au PMR.
On est en train de parler à la RATP là, non? Non, pardon, excusez-moi.
Mais je suis pas sûr que ça a été testé sur les trottinettes électriques encore.
Ah non, tu vois le mec en fauteuil roulant sur une trottinette électrique.
En parlant de trottinette, il y a.
En même temps, ça n'a pas eu couper les jambes. Quoi,
je vais vous présenter Simone.
Laquelle?
Là, j'ai très peur.
Continue ta phrase.
On a plusieurs.
C'est une trottinette ultra compacte qui, une fois pliée, elle fait la taille d'une feuille A4.
Ça s'appelle des rollers, Michel.
Non, mais enfin. Après, A4 aussi en surface, hein, pas en.
Ok.
Parce que sinon, c'est.
Très très fin.
Et elle pèse pas plus de 3 kilos.
Putain! Yes, une feuille de 3 kilos en plomb.
Mais elle n'est pas encore électrique, mais ses créateurs sont en train de travailler.
Tu sais que c'est thermique. Rien que la batterie, ça fait plus de 3 kilos, donc déjà.
Il y a aussi le drone anti-incendie. J'aurais aimé faire une blague sur Notre-Dame, mais bon, too soon. Il y a le lampadaire purifié.
C'est un chanteur de rail, too soon.
Quoi?
Non.
Il y a le lampadaire purificateur d'air. Il est équipé d'un capteur solaire, donc pas besoin de câble électrique. Et en plus, à l'intérieur, il y a un système de filtre au charbon qui permet de retenir 99,97% des particules. Et en ce temps...
Particules, je pense, mais...
J'ai dit quoi?
Les particules.
Ça, c'est dans Bob Lépon.
J'ai eu un doux début, mais tu sais, c'est
les particules, je suis désolé, je suis fatigué. Non, et en plus de ça, en temps que cette canicule de merde, il est équipé d'un brumisateur.
Le truc le moins écolo de la Terre, quoi.
Bah si, quand il pleut, tu retiens.
Et on parle de ton ventilo ou pas?
Et puis bah...
Non, mais là, sur tous les putains de lampadaires.
Mais non, c'est de l'eau quand il pleut, quoi.
Ouais, en été.
Non, mais en canicule, ça en magazine. Bref, félicitations, Fabienne. Et la médaille d'or a été donnée à Opoly. C'est un accessoire Malinx qui permet de changer sa couette facilement. C'est deux crochets.
Oui, j'ai vu ça. T'as essayé de caler un malinx,
ouais,
lynx,
ouais,
c'est ça
je sais.
J'ai vu ça.
Oh là là, on vieillit. Hein.
Je trouve ça ouf que ça gagnait.
Ouais, c'est deux crochets que tu mets sur ta porte et qui permet de retenir ta couette. Et toi, après, tu viens avec les coins de
ouais, en gros, c'est des crochets que t'as.
Ouais, mais si on a vu la même vidéo, c'est absolument pas pratique du tout. En fait, le mec, il galère de ouf avec ça.
Je vais décrire rapidement. Donc, effectivement, ce que tu disais, tu mets les crochets sur la porte, comme ça, ça crochet. Ouais. Après, il y a des pinces, donc tu peux pincer ta couette. Et après, t'as juste à. Là, comme si tu rhabillais ta couette, globalement.
C'est ça.
Et j'avoue, ça fait quand même beaucoup d'investissement. Alors que si tu vas faire la taupe dans ta couette, bon, tu te démerdes au final. Ouais.
Voilà.
Moi, j'ai essayé ces crochets-là pour poser des questions à un supposé hérétique. Ça marche très très bien. Mieux qu'avec les couettes.
Monsieur connaît le terme, poser la question.
Deux crochets, une raquette de ping-pong et une aiguille. On va très loin.
Et je vais finir avec une information complètement inutile, mais qui me tient à cœur.
Hier, j'ai mangé.
Je vais bien.
Le 27 avril 1991, donc la date de mon anniversaire.
Oui, bravo. On a inventé Ichouchou.
Non.
Merci Paris.
La Poste a mis en place un timbre pour fêter le 90e anniversaire du concours. En gros, vous savez quand me donner des cadeaux.
Très bien.
Ah, c'était vraiment juste pour ça, parce que je me disais, tiens, c'est pas ouf comme chute.
Oui,
finalement.
Oui, bah, je pensais que ton anniversaire est plus classe que le fait qu'il y ait un timbre en fait.
Bah, ouais. C'est mon anniversaire. Point, point,
bah, bon anniversaire.
Bon anniversaire.
C'est pas aujourd'hui du coup. Bon, allez, Camille, sauve-nous.
Pleinement, elle a une culotte.
Veuillez ôter votre culotte. Est-ce que vous échangez vos sous-vêtements maintenant?
Vous baissez votre short, s'il vous plaît, monsieur Lebowski.
Ce jingle était magnifique.
Merci, je me suis bien éclaté.
Et donc moi, je vais vous parler donc du sous-vêtement masculin, parce que si on faisait le féminin, on n'aurait pas le temps de tout faire, donc ce sera...
Je me poserai trop de questions.
Ce sera dédié au sous-vêtement masculin.
Le bon slipos.
Et comme à mon habitude, je commencerai en vous posant une question, et aujourd'hui, je changeais le type de question. Vous, à cette table, vous portez quoi, les garçons, comme type de sous-vêtement?
Boxer.
Boxer. Ouais, ça dépend des jours. Généralement, boxer.
Ouais. Boxer. Ouais, sinon, bah, ça m'étonne pas plus que ça.
Okay. Voilà. Par contre, c'est un peu indiscret, mais vas-y.
Ah oui, oui, non, mais je me demandais. Parce
et pendant
pas...
combien de temps?
Mais non, mais parce qu'on va parler des différents types de sous-vêtements d'hier et d'aujourd'hui, et aujourd'hui, les plus, entre guillemets, utilisés
répandu.
Sont répandus, c'est le boxer, le caleçon et le slip.
Répandu. Rigole, non.
Mon Dieu. Bref.
Bah, sur Twitter aussi, si vous voulez nous dire quel.
Oui, mais bien
non,
sûr.
Non. Je veux savoir.
Hein. Pas répondez au hashtag Team Boxer ou Team Caleçon ou Team Slip.
Team Slip. Jamais de la vie, vas-y, continue.
Évitez le Patrick Team Slip. Hein, ça,
Allez bien.
Génial. Donc. Les sous-vêtements, en fait, ont un but à la base, c'est de protéger la peau du frottement des tissus, qui, sur le long terme, peut être un petit peu irritant. Mmh. Et donc, le sous-vêtement masculin, les premières traces, en tout cas, qu'on ait retrouvées aujourd'hui, il apparaît...
Camille, les premières traces, non.
Vous allez être relou, par contre, je sens.
Non, mais t'avais un choix de lexique à faire.
Et là, ça s'est mis à puer, la merde, hein. Ah, non, mais vas-y, continue, mais...
Bref, on les retrouve en Égypte antique, semble-t-il, sous la forme d'espèces de pagnes en fait qu'on appelait des chendjits. Et c'était du coton tissé ou du lin et c'était retenu à la taille avec une petite ceinture.
Cordelette.
Une cordelette, etc.
J'étais comme ça quand j'ai fait mon sujet sur les chaussettes.
Non, mais t'as pas commencé par les traces de frein. Non.
Mais moi non plus, c'est vous qui vous emballez tout seul.
Donc on disait une cordelette,
voilà.
En Égypte antique.
Et les Romains également, ils portent des sous-vêtements, donc les hommes, sous leur toge le plus souvent. Ah oui. Et on appelle ça le... Alors là, ça va être très compliqué de le prononcer en cette fin d'émission. Le subligaculum, voilà.
Subligla
sous leur toge.
Subligaculum, voilà.
Ok.
Voilà. Et donc ça, c'est pour l'Antiquité. Et au Moyen-Âge, les hommes arrêtent de porter des sous-vêtements en bas. Le seul sous-vêtement masculin qu'on va avoir, c'est la chemise.
Ils faisaient vraiment tout bien au Moyen-Âge, finalement.
Donc c'est une longue chemise.
Parce que c'est quand même la meilleure chose.
Ils mettent tous des pantalons en soie, donc ça irrite plus, c'est pour ça.
Bah, on met des espèces de collants, en fait, qu'on appelle les chausses. Voilà, mais qui je pense irrite un petit peu quand même à l'entrejambe, mais bon, il faut croire qu'ils ont survécu. Et donc en fait, on porte une chemise sinon tous les jours. Ça permet d'éviter vraiment le frottement sur la sur la peau parce qu'au Moyen-Âge, on commence à avoir des vêtements bah, déjà dans des matières qui sont pas super agréables, qui sont super rugueuses, et puis on brode aussi énormément les vêtements, donc vous imaginez, ouais, ça doit être très désagréable. Donc on porte cette chemise, d'autant plus que ces chemises, donc elles étaient blanches, elles étaient, je sais pas en quoi elles étaient, voilà, mais elles aspirent en quelque sorte la crasse, donc on peut la laver tous les jours, la changer, etc. C'est vraiment un but hygiénique et un but de confort. Les seuls hommes qui vont être amenés à porter un sous-vêtement en bas, c'est lorsqu'on fait du cheval, en fait.
Les chevaliers de manière générale.
Voilà, bah, pas forcément les chevaliers, les cavaliers.
Moi, je pensais vraiment juste à se coincer le prépuce dans la côte de l'ail.
Alors, voilà, il y a de cette idée-là, mais déjà, il y a les cavaliers, en fait, pour éviter du coup le frottement du cuir.
Ouais, sur la peau, qui,
sur la peau qui doit pas être voilà, donc je ne sais pas si c'est de là que vient l'expression se faire cuire le cul. Je me suis posé la question tout à l'heure.
Je suis pas sûr. Vraiment pas sûr.
Voilà, Aurélia, si tu nous écoutes, tu dis tout le temps cette expression. Tu le sauras.
Bah, Aurélia, notre invitée de l'épisode
de tout en canon. Voilà. Voilà. Et les chevaliers effectivement aussi, ils mettaient un genre de sous-vêtement en bas parce que effectivement l'armure étant légèrement parfois contendante. Il y a dû avoir un ou deux accidents.
T'imagines un hiver, c'est un coup de coincer le gland dans le. À coller le gland sur l'armure.
Ça doit être horrible.
Froide.
Donc voilà, pour et ce qui est du Moyen-Âge.
Et puis en été, pareil, tu te fais cuire le cul là.
Oui, ah bah là, non mais complètement, plus avec le cuir en dessous, enfin l'enfer quoi. Donc à la Renaissance, ça va changer un petit peu. Pourquoi ? Parce que le pourpoint, donc le pourpoint en quelque sorte, c'est le haut du vêtement masculin, si vous voulez. En gros, au Moyen-Âge, le vêtement masculin, il est composé du pourpoint, donc une espèce de robe en fait, avec une ceinture à la taille, c'est une robe qui va jusqu'au genou, et d'un collant en dessous. Et à la Renaissance, ce pourpoint, il raccourcit énormément, et il devient, en termes de longueur, presque l'équivalent de la chemise, exactement. Et donc du coup, bah, c'est poutre apparente un petit peu avec le collant. Et donc c'est très gênant. Donc
on est tous des danseurs, quoi.
Voilà. Et donc
Michel, vous êtes content un peu.
On se dit, il faudrait cacher un petit peu et puis protéger également cette partie-là du
des
corps.
Des intempéries.
Parce qu'un petit collant, ça ne protège pas des masses.
Un accident est vite venu.
Et donc on invente la braguette. Donc le mot braguette, il vient du mot braie, c'est-à-dire pantalon. Et donc en fait, c'était un tissu triangulaire qu'on allait épinglé sur les collants, en fait c'est une pièce de tissu juste qu'on rajoutait comme ça par dessus et au début pour
cacher le zob,
voilà, ça servait à cacher, mais en fait on va en fait un petit peu faire une coquille, c'est-à-dire on va la garnir.
Ah. Okay.
Voilà.
Ça, on a toujours été très coquets hein, dans l'histoire.
Voilà,
l'histoire
donc on masculine. Mettait des petites choses à l'intérieur et très rapidement.
Tu mettais à tout casse-dalle, c'est une banane en fait.
Il va y avoir
de trois noix.
Il y a quelque chose de super érotique en fait qui va se développer avec ça, c'est qu'on va
les
organiser un concours. Mais ouais, on va organiser un concours de braguettes en fait. Mais c'est un truc de dingue. Si vous tapez portrait François Ier, ouais. Henri VIII, Henri III, vous allez voir, ils se faisaient du coup les braguettes mais les plus grosses du monde quoi. Et parfois même, on y mettait des petites clochettes. Comme ça, quand t'allais au bal, la femme, elle t'entendait arriver, t'avais tes clochettes. Et plus t'avais une grosse braguette, plus t'étais viril, plus t'étais puissant. Mais c'est énorme ce qui se faisait.
Voilà. Est-ce que les auditeurs auditrices peuvent nous envoyer leurs photos de braguettes préférées, s'il vous plaît ? Pas les vôtres, pas les vôtres, historiques. Voilà, un petit concours des braguettes que vous allez arriver à trouver sur le net.
Et c'était vachement ornementé, en fait, parce qu'on pouvait mettre de la petite dentelle, on pouvait mettre, tac, piquer des petites fleurs dedans.
Ah, on était plus coquets,
quand même. Il y avait un système de petits lassages. Comme ça, quand vous voulez faire pipi à cheval, en fait, sans descendre et enlever tout, bah là, on va
descendre du cheval.
Mais oui, il y avait un système de lacets, donc il y avait des boutonnières avec un lacet, tac, on pouvait délacer la braguette et pouf, on pouvait faire pipi à cheval.
Putain, mais ton cheval, il devait être deg. Genre,
bah, le pauvre cheval, oui, ça c'est sûr.
Je pense qu'il s'en bat les couilles, voilà. Mais.
Non, mais attends, mais réussir à pisser assez loin du cheval pour pas le pisser dessus. Mais bon, excuse-moi, détail technique.
Oui.
Mais il n'y a pas de souci.
Il n'y avait pas aussi l'histoire de bonbons?
Si, mais là on est vraiment dans ça. Mais ça c'était à l'époque où je faisais une visite guidée qui s'appelait oui. Paris érotique, qui était très peu recommandable. Mais
si, elle était très bien.
Elle était
très
bien.
Mais en gros, les hommes à la cour de François Ier, ça arrivait qu'ils se mettent des petits bonbons au chaud sous les testicules et qu'à la fin du bal, ils l'offraient
à
leur crush. Voilà, alors crush en disant regarde ce que j'ai gardé au chaud pour toi, dans ma mycose.
Pourquoi tu voudrais manger du bonbon à la tub?
Mais je sais pas. Voilà. Horrible. Bref, et donc
tu
à la
chocobon, il y a...
vous dégoûtez, vas-y continue.
Et à la Renaissance, du coup, à part cette coquille cache-sexe qui concerne que les riches. Hein.
Ah bah
le
oui,
pauvre
oui.
N'a pas ça. Hein. En fait, on reste à poil sous la chemise et c'est de là que vient l'expression, et là c'est pas une blague, être comme cul et chemise en fait. Parce que du coup, il y avait rien entre sa chemise et son cul, quoi. Voilà, ça fait sens en fait. Voilà. Ensuite, à l'époque moderne, donc là, je vous parle plus Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, Château de Versailles, bam, bam, bam. Là, on est... c'est la période de ce qu'on appelle la culotte. Donc, qui n'a rien à voir avec la culotte qu'on porte.
Sans culotte, en fait, c'est des pantalons.
Voilà, exactement. La culotte, en fait, c'est à la fois un sous-vêtement et un vêtement que portaient les riches, en fait, qui s'arrêtaient juste en dessous du genou, qui très souvent étaient en soie, enfin, dans des tissus précieux, etc. Et qui pouvaient parfois être portés par-dessus des espèces de collants blancs. Enfin, voilà, c'était un genre de pantacourt avec un collant par-dessous. Et effectivement, ensuite, on va avoir les sans-culottes, les révolutionnaires, par opposition, qui, eux, portaient un pantalon, donc un genre de pantacourt, mais qui ne portaient pas la culotte. Au final, les premiers vrais sous-vêtements masculins, ils apparaissent dans les années 1830, donc super tard.
Ouais, pas mal.
Ouais. Et alors, quand je vous dis vrai sous-vêtement masculin, je suis pas sûre que vous aurez kiffé en porter. C'était des caleçons, en fait, vraiment même matière, un petit peu caleçon d'aujourd'hui, longs, qui vont jusqu'aux chevilles. En gros, c'est un pantalon sous le pantalon.
C'est un pyjama.
C'est un pige.
Ouais, mais sous le pantalon.
Ah, c'était,
et sachant qu'à l'époque, on porte des pantalons super saillants, quoi, des trucs d'équitation un peu,
c'est
tu
un
vois.
Legging,
donc,
il devait crever de chaud.
Et l'hiver, c'était en laine, le truc.
Ouais, mais en hiver, je dis pas. En hiver, on est tous un peu la mode, hop, on se le met sur l'épaule.
Mais ça doit chatouiller, moi, je pense, de la laine directement en contact. Voilà.
Déjà, en pull, la laine, je supporte pas ça.
Alors, en slip, non.
Ah, non.
je comprends. Et les hommes également, c'est la période en fait où des hommes vont commencer à porter le corset. Ça m'a énormément surpris.
Non.
Et si, voilà, on a le corset en sous-vêtement masculin au 19e siècle pour cacher la bedaine.
Ah,
voilà. Hicham tout à l'heure me dit oh, je mange plus de crudités pour faire attention, mais arrête, remange des Burger King et paye-toi un corset.
Ben voilà.
Mais oui, voilà, on t'a trouvé ta solution, Hicham. Et le corset pour homme, il disparaît totalement, mais quand même super tard, dans les années 60. 1960.
Ah putain, oui.
Mais voilà. Ouais, donc jusque dans les années 60, il y a des mecs qui se sont achetés des corsets quand même, c'est complètement dingue. Alors que les femmes arrêtent d'en porter depuis les années 1910.
Oh bah, je pense qu'il y en a encore quelques-uns qui achètent des corsets, mais je pense qu'on est sur un autre sujet là.
Oui, là on est sur un autre, tout à fait.
Une autre fois.
Oh, tu sais, remplacé par les ceintures abdominales là, tu veux pour cacher et tout.
C'est ça, on a juste changé le nom et dit que c'était pour le mal de dos, mais.
Tout ça.
Et dans les années 1870, on décide de raccourcir ce putain de caleçon. Donc on met quand même 40 ans à réaliser que ça doit pas être confortable d'avoir un sous-vêtement qui va jusqu'aux chevilles. Et il va commencer à prendre la longueur du caleçon actuel. Donc au final, entre le boxer, le slip et le caleçon, le plus vieux des trois, c'est le caleçon.
Okay.
Voilà, qui apparaît dans les années 1870. En 1906, apparaît le slip. Et là, je vous parle vraiment du slip, le vrai, quoi, le moule bijou, le vrai slip. Voilà. Et il est destiné aux sportifs.
Bah logique. Hein.
Voilà, le slip. De quoi, pourquoi ?
Je sais pas. Je...
Bah, non. C'est-à-dire qu'au début, on peut l'acheter en fait que dans les boutiques, voilà, les boutiques de sport ou dans les magazines par correspondance, de vente par correspondance sportive. Il va se démocratiser néanmoins dans les années 1930 et il va même carrément faire une grosse concurrence aux caleçons parce que en fait, on raconte que ce serait très très lié au crash boursier justement de 1929, tu vois, comme quoi on n'en avait jamais parlé de ce truc là mais voilà, parce que c'est beaucoup plus économique à produire.
Ah malin,
j'ai déjà entendu cette histoire.
Et donc du coup c'est plus petit, les matières pour faire le slip par rapport aux caleçons c'est beaucoup moins onéreux, donc on va se mettre à fabriquer des slips en grande quantité. Comment ?
Et puis il y a moins de matière.
C'est exactement leur argument de base.
Et en 1918 on a un certain Étienne Valton qui est le fils de Monsieur Petit Bateau, de la marque Petit Bateau, voilà, qui va inventer à Troyes la première culotte unisexe. Et le moustique est là. Voilà, je vous le dis parce que vous le cherchez depuis tout à l'heure. Le moustique est là. Mais tu peux l'éclater sur ton mur blanc, ça fera une trace.
Voilà, je pense que les auditeurs sont très contents de le savoir.
Voilà, non, mais je le dis parce que depuis tout à l'heure, vous faites la guerre au moustique.
Et je propose de continuer sur les slips.
Bateau.
Très bien. Donc, il invente les slips petits bateaux qui sont unisexes, qui sont en coton blanc. Pourquoi en coton ? Parce que c'est facile à faire bouillir. Du coup,
oui, effectivement, c'est facile à traiter, quoi.
Exactement, pour des questions d'hygiène. Et alors, d'ailleurs, rien à voir, mais vous savez pourquoi petit bateau, ça s'appelle petit bateau ?
Parce qu'un gros bateau serait fait.
Parce que des petites commandes. Et puis
Mais non, parce que le mec, il a écouté la chanson de Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils des jambes ? Et il s'est dit hey, mais tiens, on va raccourcir les jambes des sous-vêtements, en fait.
Ah.
Mais c'est complètement capillotracté, mais c'est incroyable cette histoire.
C'est,
donc, voilà.
C'est parce que ça n'est jamais arrivé.
Mais si, même sur Petit Bateau, ils le disent.
Ouais. Voilà. C'est souvent vrai l'histoire de l'entreprise sur le site de l'entreprise.
Bah, bien sûr.
C'est des bons trucs, Petit Bateau.
Moi, je crois Camille.
Voilà.
Des couvertures anti-ondes pour les enfants. Ne croyez pas tout ce qu'ils racontent.
Donc voilà, les culottes courtes, entre guillemets, elles apparaissent en 1918, donc juste à la fin de la Première Guerre mondiale. Et en 1925, on a Jacob Collomb, qui au passage font la marque sportive Everlast, qui regarde un match de boxe et puis il se dit, ah, les pauvres boxeurs, les boxeurs, ils avaient un short qui était maintenue par une ceinture en cuir. Donc ça, avec la sueur et tout, ça devait être en termes agréables, ça devait être très sympa. Et donc lui, il s'est dit, non, en fait, si on mettait un genre d'élastique, un truc un petit peu plus souple et tout, c'est plus sympa. Et il invente le boxer, en fait, qui, pareil, à la base, au final, était quelque chose de sportif.
Le box.
Ah, absolument. Oui, oui.
Ça se voit, on a quand même un physique qui est là pour aller sur un ring. C'est pour ça qu'on...
Ah, bah, exactement, on met des boxers.
Ouais, ou pas. Ouais.
En Octogone 19... sans règles.
Bon, avant, j'achetais des gladiators, mais bon, maintenant, je me suis un peu rangé, je prends des boxers.
En 1927, on a André Gillier qui va faire à Troyes lui aussi, comme petit bateau. Donc Troyes, c'est vraiment la capitale du slip. Hein. Les premiers slips kangourous. Voilà.
D'accord. Ouais. Avec une qu'est-ce poche devant. Une
voilà, poche. Exactement. C'est slip à poche.
Et pour mettre la monnaie quand tu vas à la boulangerie.
Voilà. Ou pour sortir le zizi plus facilement quand tu veux faire pipi sur ton cheval.
Zoub, ouais.
Aussi. Voilà. Okay. Et il faut savoir d'ailleurs qu'en 1958, l'armée française et le général de Gaulle vont conseiller aux Français de porter un slip plutôt qu'un caleçon, parce que c'est plus pratique et c'est plus saillant. Voilà, non, mais... donc le général de Gaulle, ah bah, il s'est vraiment mêlé de tout quand même, j'avoue. Le type. Voilà.
Ah, du coup, ils font bien rire les gaullistes, mais bon.
Et du coup, ça a vraiment fonctionné. Le slip a été à la super grande mode et jusque dans les années 80.
Ouais.
Des années 50 aux années 80, on ne porte que le slip. Aujourd'hui, on n'arrête pas le progrès. Hein. J'ai découvert des trucs assez incroyables.
Slip connecté.
Il y a le jockstrap que je ne connaissais pas, qui appelle également le suspensoir.
Bah oui. Ouais,
c'est magnifique à regarder, ça, quand on est une femme. Hein.
Est-ce que tu peux expliquer
Oui, je tout à fait. Donc, en fait, c'est une coquille devant. À la base, c'est pour les sportifs également. L'histoire de vos sous-vêtements est faite pour des sportifs quand même. Et donc, c'est une coquille qui peut être souple ou très, très rigide, voilà. Maintenue par une ceinture élastique.
Mmh.
D'accord. Mmh. Et derrière, t'as deux élastiques transversaux comme ça, ce qui fait que t'as totalement le cul à l'air.
Ah.
Voilà, très saillant. Voilà, c'est très très saillant. Il y a le string pour hommes également, j'en ai pas parlé, mais voilà. Mais 10% des strings qui sont vendus en France sont pour hommes.
10%.
C'est quand même pas mal, moi je trouve.
Bah ouais.
Voilà. Mmh. Et donc le but,
ça pas confortable.
Non, mais le but du string à la base, c'est pas du tout d'être confortable, c'est de ne mettre aucune marque. D'avoir aucune marque sous les vêtements. Et il y a quand même des périodes dans l'histoire de la mode qui viennent où les hommes portent des pantalons très très moulants. Et donc, du coup, beaucoup d'hommes se sont mis parfois au string. Parce que le slip, l'élastique, est assez parfois gros.
Ils veulent aucune marque de vêtements, par contre, la poutre apparente, pas de problème. Quoi.
Oui, c'est ça.
C'est pas un vêtement.
Tu peux pas l'enlever, la poutre apparente.
Oui, ouais, c'est ça. Voilà. Il y a également le body string pour hommes. Là, je pense qu'en termes d'inconfortable, on doit être.
Body.
C'est le Borat.
C'est un body. Non, c'est un body, vous savez, t-shirt et tout relié au string.
Voilà. Okay.
Les slips culottes vibrantes contrôlables par smartphone.
Pour ça, j'en ai un là, tu vois.
Voilà.
J'aimerais bien que tu arrêtes de l'allumer parce que c'est très perturbant là, depuis tout à l'heure.
J'ai les narines qui se dilatent, c'est bizarre.
Il y a également les sous-vêtements anti-odeur qui viennent d'être faits au Royaume-Uni pour hommes et c'est fabriqué avec du carbone apparemment dedans.
Est-ce que c'est pas les trucs où tu as une feuille que tu mets
du charbon actif
une feuille remplaçable derrière pour filtrer les proutes ou je sais pas quoi, j'avais vu ça.
Mais je sais pas, mais du coup là tu peux remettre des friandises à nouveau dans ton tu vois.
Dans ton slip.
Oh, oui.
Et enfin aujourd'hui en fait c'est le retour en force du caleçon de plus en plus. Voilà.
Parce qu'il fait chaud.
Et en France du slip avec le slip français.
Mais parce qu'apparemment des trois le caleçon serait le plus confortable. Moi, je suis très mal placée pour juger.
Moi, je dirais que ça dépend des circonstances.
Oui. Et puis des
parce
personnes.
Parce que c'est là qu'on respire le mieux.
Non, il y a des fois où tu as besoin d'être maintenu, des fois où tu n'as pas besoin d'être maintenu. Tu vois.
Tu rentres ou tu sors.
Hein. C'est variable.
Prends une décision.
C'est tout à fait variable.
Et ça dépend des personnes.
Jamais j'irai faire du vélo en caleçon, typiquement. Tu vois. Jamais.
Ça ne doit pas être commode.
Ouais, non,
mais comme jamais, j'irai courir un marathon sans soutien-gorge, en fait. Voilà, je comprends.
Exactement.
Tout à fait.
Ouais, pareil, j'irai pas courir
un marathon sans soutien-gorge.
Non, mais j'ai pas envie d'arrêter, moi, c'est vachement intéressant.
Il est trop, trop bien.
Merci.
Je me rends compte que mon tiroir à sous-vêtements est très pauvre parce que j'ai des chaussettes et des boxers. Et
c'est
pombard.
Vachement plus vaste que
ce bah
que
ouais, en fait, je pourrais prendre plein de trucs.
T'as même pas un caleçon des Simpsons qu'on t'aurait offert ou un truc comme ça.
Ou un body string.
Ou un truc d'enterrement de vie de garçon.
Et pour l'escalade, sans déconner, ça doit être pratique.
Ouais, bien sûr, un truc qui me rentre dans le huc pendant que je fais de l'escalade. Très bien.
Ouais, surtout ça s'accroche quand tu tombes.
Schlac. Ah, je suis pas bien.
Pirouette.
Sur ce, mais il me semble qu'on a fini.
Bah oui.
Et bah c'était magnifique. Merci beaucoup pour ce sujet, Camille. Ça m'a fait penser à tes premiers sujets sur les sextoys et compagnie.
Et des goniches à vapeur, tout
exactement.
Ça.
Ah, ça manque.
Mais c'était plus léger, c'était sympathique.
Oui. Bah on peut pas faire des goniches à vapeur à chaque fois. Hein.
C'est vrai.
Ça ferait une bonne expression. Voyons, on va pas faire un goniche à vapeur à chaque fois.
Mais sur ce, nous allons malheureusement nous quitter jusqu'à prochaine fois, certes. Nous nous retrouvons dans 2 semaines. Aujourd'hui, nous avons accueilli Dari. Et c'est un plaisir.
Bravo.
Ça m'a fait très plaisir de venir aussi. Merci à vous pour l'invite.
Est-ce que tu peux rappeler où est-ce que les gens peuvent te retrouver ?
Principalement Place Clichy. Donc tous les jeudis soirs de 22h à 22h07, je fais la première partie au Brésoir. Voilà. Mais sinon, temps mort sur YouTube.
Très bien.
Archéologie, histoire, pas quand vous voulez. Voilà.
Très bien. Top.
Et on recommande.
Et est-ce que tu as des comptes Twitter ou quelque chose?
C'est pareil, temps mort ou TPS mort sur Twitter. Sur Facebook, ça doit être temps mort aussi. Sur Instagram, je suis à Dari Beliakov parce que temps mort était pris.
Très bien. Mais cool. Et nous, dans tous les cas, en tout cas, c'était un plaisir de te recevoir.
Maintenant, je vais créer mon compte iTunes là pour mettre 5 étoiles.
Parce que tu vas faire quoi? Tu vas créer ton compte iTunes qui va te prendre approximativement 10 secondes.
Et il va aller mettre 5 étoiles
tu vas chercher
à Fréquence Moderne.
Tu vas mettre 5 étoiles plus un petit message adorable à Pardon Maman parce que ça nous fait extrêmement chaud au cœur.
Et je vais proposer des sujets.
Exactement.
Alors là, complètement.
Et ça nous ferait extrêmement plaisir parce que plus de personnes pourraient connaître ces choses.
Et plus on nous propose de sujets, moins on a besoin de réfléchir à des sujets.
Oui, proposez-nous d'autres sujets, tiens. Ça fait longtemps même si.
Donnes des ordres aux auditeurs, toi ?
Non, c'est une proposition. Je propose des propositions.
Tant qu'ils obéissent, il faut donner des ordres.
Non, en tout cas, c'était un plaisir. Nous, on se retrouve dans 2 petites semaines avec une nouvelle invitée. Et puis, dans tous les cas, c'était un plaisir de parler à vos oreilles. On se retrouve très vite. Prenez soin de vous, prenez soin les uns des autres. Et puis, à très bientôt. Allez,
santé, bisous.
Hydratez-vous.
Mais dis-tu nos conneries.
Veux que je lui dise d'aller se faire enculer ?
Vulgaire ? Je trouve ça vulgaire.
Oui, je trouve ça vulgaire.